Bon, Didier Sicard, président de l'association Paul Ricoeur, a une petite communication à faire. Je lui laisse la parole.
À l'issue de cette rencontre-débat, le prix Paul Ricoeur sera attribué, décerné, et à 4h30. C'est un prix que l'association Paul Ricoeur décerne tous les deux ans, et il y a eu des récipiendaires prestigieux. Et donc c'est un prix important, et ce serait réjouissant que la plupart des personnes qui assistent à ce colloque à 4h30 ne s'en aillent pas tout de suite, mais qu'il y ait quelques minutes avant que Laure Adler, qui participait au jury sous la présidence de François Doss, avec la présence d'Olivier Mongin et de Michel Fossel, soit... que vous soyez là pour accueillir ce récipiendaire. Il y aura quelques mots de Laure Adler et la réponse du récipiendaire dont le nom vous sera dévoilé à ce moment-là. Et je pense qu'il y aura quelques livres qu'il pourra éventuellement vendre à cette occasion. Donc simplement à 4h30, au moment de la fin de ce colloque, et comme Laure Adler, je crois, a des obligations après, donc si par hasard il y avait éventuellement une discussion qui n'était pas terminée, on la reprendrait après la remise du prix au lauréat. Donc je vous remercie si vous pouviez rester à 4h30 sans vous échapper pour que ce prix soit remis de façon solennelle. Merci beaucoup.
Bien, bonjour. Donc nous reprenons cette rencontre-débat autour de Paul Ricoeur et la question de la croyance. Après cette rupture qu'imposait le déjeuner, nous voici à parler des ruptures du croire, après-midi beaucoup plus saccadé. Nous commençons avec Jean-Louis Schlegel, philosophe, spécialiste en sociologie des religions, membre de la Revue d'Esprit, éditeur au Seuil, et surtout, à mes yeux, traducteur infatigable de Rosenzweig, Habermas, Balthazar et tant d'autres. Et parmi donc ces nombreuses cordes, il va nous parler aujourd'hui de Michel de Certeau et des ruptures instauratrices dans les années 60-70. Nous l'écoutons.
Merci Camille. Donc, je disais moi-même ce matin que nous n'allions pas continuer la discussion de Ricoeur, mais plutôt tenter de prolonger sur la période qui a suivi. Donc, je vais parler tout de suite de Michel de Certeau et, à vrai dire, de la période quasi contemporaine encore de Ricoeur, même si il y a quand même un petit décalage de temps, puisque moi, je vais vraiment parler des années, mettons, 69 ou, si on veut, peu importe, 68, 75. Tandis que Olivier Roy, donc, parlera pratiquement de notre actualité. Donc je fais un peu la transition entre les années 50 et 60 que nous avons évoquées ce matin avec la réflexion, le commentaire de quelques textes importants de Ricoeur sur la foi, la religion, etc. Et donc et la période plus actuelle. Pour cet exposé, je vais surtout utiliser les textes de Michel de Certeau écrits après 68, plus exactement donc entre 69 et 75, et qui se trouvent presque tous dans La faiblesse de croire, hein, en poche aujourd'hui, facilement accessible dans toutes les bonnes librairies. Je me référerai, sans le dire explicitement, à d'autres textes de cette période. Alors c'est normal que, évidemment, je me réfère avant tout à La faiblesse de croire, puisque notre thème est, après tout, la croyance. La date où ces textes ont été écrits a l'avantage d'être décalés donc de quelques années par rapport à ceux de Ricoeur et d'en constituer quand même une sorte de suite ou une transition. Une transition que Certeau présente en effet comme une rupture. Une rupture dans le mode de présence des croyances ou du croire d'une part et une rupture à faire par ceux qui croient. En revanche, ces textes sont à leur tour éloignés maintenant par rapport à nous, et il y aurait en tout cas un double débat à mener, l'un sur la réalité et la nature de la rupture de la fin des années 60 et début des années 70, et un autre débat sur l'écart éventuel entre les intuitions de Michel de Certeau et la situation religieuse qui est venue ensuite à partir des années 80 et jusqu'à aujourd'hui, et qu'on a déjà qualifié rapidement ce matin de retour du religieux en mettant plutôt trois guillemets de chaque côté qu'un seul. Le texte central donc, dont je m'inspirerai avant tout est intitulé précisément « La rupture instauratrice », paru dans Esprit d'abord en 1971. C'est un texte central parce qu'il théorise ou formalise des idées présentes dans d'autres textes. Dans la rupture instauratrice, il s'agit aussi d'une rupture à instaurer dans une nouvelle situation ou dans de nouvelles conditions de la croyance. Donc, je vais avant tout parler maintenant, parce qu'on le fait assez peu, on parle plutôt de la rupture instauratrice à instaurer, donc des propositions de Michel de Certeau pour le croyant qui veut rester croyant dans la nouvelle situation contemporaine de ces années-là et de la suite. Mais on revient assez peu sur ces analyses de la nouvelle situation qui est faite aux religions. Selon lui, en effet, un double changement se produit à ce moment-là dans la société et dans les sciences humaines qui analysent la religion. Je crois que les sociologues de la religion, qui est un peu ma tribu par ailleurs, les sociologues de la religion confirmeraient la chose dans leur langage à eux. Ces années sont en effet considérées par beaucoup comme le début d'une nouvelle vague de sécularisation, nouvelle voulant dire une sécularisation d'une nouvelle nature, enfin une sécularisation beaucoup plus intérieure ou plus intériorisée que durant la longue phase précédente, celle de la société industrielle, de l'urbanisation, de la société technoscientifique. Désormais, ce sont les mentalités, les représentations, le rapport au corps propre, mais aussi au corps social ou au corps ecclésial, qui se sécularisent, qui se détachent, et aussi donc, voilà, il se trouve que la nature et le sens de cette évolution ne sont pas du tout univoques, clairs, déchiffrables, en particulier à propos de la question religieuse. Michel de Certeau a perçu sûrement de manière aiguë cette évolution, je pense même qu'il l'a éprouvée personnellement, compte tenu de ses terrains, les sciences humaines, c'est cet intérêt qu'il avait pour les phénomènes religieux ou les phénomènes tout court de la société, avec le texte remarquable sur mai 68, la prise de parole. Donc, il tente de penser cette nouvelle situation où, pour prendre son langage à lui, d'en penser le pensable. Et donc, simultanément, d'en faire ressortir l'impensable, ce qui échappe à la raison scientifique, en l'occurrence celle des sciences humaines alors en plein triomphe, dont il est lui-même participant. Donc, c'est cela que je voudrais rapidement présenter. On pourrait le ramener à la proposition suivante. Ce qui se produit alors est un déplacement du rapport à la vérité. Et on pourrait presque mettre vérité avec un grand V. Ce déplacement ne laisse pas indemne les religions, et forcément en premier lieu le christianisme, religion historique de nos sociétés européennes. Je vais donc essayer d'exposer d'abord cette problématique du déplacement et ensuite je tenterai une évaluation rapide par rapport à la suite et à notre actualité. Dans la faiblesse de croire, le titre du chapitre 7, la rupture instauratrice, est abrégé pour des raisons que Luce Giard, l'éditrice, explique dans son introduction. Dans Esprit, où il était paru en juin 71, le titre complet était « La rupture instauratrice ou le christianisme dans la culture contemporaine ». Il commence, il faut le dire, par quelques énoncés assez massifs, surprenants, peut-être encore plus aujourd'hui dans notre situation religieuse nouvelle, et ces énoncés vont être explicités justement un peu plus loin dans le corps de l'article. Je les lis. « Les affirmations de sens » font aujourd'hui figure d'un reste, entre guillemets, dont on aurait désinfecté les champs scientifiques. Mais, exclues des laboratoires, elles entrent dans les circuits de l'exploitation commerciale. À une rationalisation du savoir semble correspondre une folklorisation des vérités d'antan. On est d'emblée dans le style propre, à la fois ramassé, efficace, de Certeau. Il diagnostique une double rupture, donc, à propos des affirmations de sens. Les affirmations de sens sont l'apanage par excellence des religions. Donc une double rupture, l'une par rapport à leur reconnaissance dans la société, et l'autre par rapport à leur place dans les sciences humaines. Pour les contemporains, le mot de Certeau qui a frappé les esprits, c'est « folklorisation ». Que voulait-il dire par là? Selon lui, on est entré au cours des années 60 dans la société du spectacle. Bon, c'est le titre du livre de Guy Debord, bien connu, qui date de 67. Et de façon très concrète, à travers la généralisation du téléviseur dans les foyers, de ce fait, on assiste alors à une mutation de l'information religieuse. Ou aussi, on pourrait dire, faudrait ajouter aussi, à une mutation de toutes les informations, mais avant tout, peut-être aussi, et en tout cas, de l'information religieuse. Dans les réflexions de l'Église, y compris encore donc au Concile Vatican II, qui venait de s'achever 5 ans avant 1965, dans les réflexions de l'Église, on espérait des nouveaux moyens de communication, une accélération et une extension du message évangélique, ou de l'annonce du message évangélique. Ou donc une extension de la vérité évangélique qu'elle, l'Église, possède. Moyennant des adaptations, cette vérité possédée au-dedans sera diffusée au-dehors, plus vite et plus loin. C'était, depuis le XIXe siècle, une position très classique par rapport aux nouvelles technologies. Contrairement à ce qu'on pense parfois, l'Église catholique n'a pas du tout réagi. Elle a réagi négativement sur un certain nombre de choses par rapport au progrès technologique, mais loin de là surtout. Et même les papes ont parfois donné, ont parfois marqué leur approbation de la nouvelle société technique qui s'élaborait, ou tout simplement des nouvelles techniques qu'on inventait. Il y a un pape dont on dit qu'il avait plus de livres de sciences sur son bureau que de livres de théologie, c'est Pie XII. Donc c'est une position classique, on a la vérité qu'on peut diffuser au dehors. Or, comme l'évoque du reste le titre de Guy Debord, la communication moderne est un système de spectacle global ou total qui façonne ou formate à sa mesure l'information, et notamment l'information du sens, ou au sujet du sens, qu'il soit politique, social ou religieux. Donc elle crée une culture du spectacle qui malaxe, pour ainsi dire, la réalité ou la vérité à sa façon, dans des récits et des fictions qui donnent un effet de réel, ou dans des mythologies dont Roland Barthes, par exemple, avait donné dès les années 50 un aperçu. La religion, et on peut englober dans ce mot à la fois les confessions de foi, les doctrines, les rites, les personnages sacrés, les fêtes, les dévotions, la religion, dans ce cas, peut rester très présente, très fortement présente. Mais plutôt qu'un sens ou une vérité, elle donne à voir des représentations du sens, des figures du sens, ou des représentants qui en occupent la place. Parce que, effectivement, dans ces sociétés, il y a une place du sens. Les manifestations religieuses, en effet, sont particulièrement aptes pour l'expression du mystère ou des mystères qui subsistent, pour satisfaire le besoin de sacré qui demeure, de tradition. Mais en même temps, disons, ces manifestations religieuses sont désormais disséminées, déhiérarchisées, sans référence à des croyances orthodoxes ou à une Église dont la vérité serait largement, voire universellement partagée. Des messages de cette Église, comme d'ailleurs de tout détenteur d'une vérité, l'information religieuse retient ce qu'elle veut, selon ses critères à elle, selon sa propre grille, qui elle-même est fonction d'intérêts divers, économiques, sociaux, financiers, ou bien sûr des attentes du public. Le journaliste offre à son public l'image de ce qu'une société a fait de la religion. Je cite Certeau, « non plus le signe d'une vérité, mais le mythe ambigu d'une énigme multiforme ». Alors, ça sert, rapidement, il faudrait donner d'autres exemples qu'il donne, mais pour des raisons de temps, j'abrège. Parallèlement donc à ces évolutions de la société, l'analyse scientifique du religieux par les sciences humaines fait subir aux religieux une évolution parallèle. Je l'ai déjà souligné tout à l'heure ou rappelé, en 70, on est en quelque sorte à l'acmé du triomphe et de l'influence des sciences humaines en France. Quand Certeau diagnostique une expulsion des religions du champ scientifique, c'est d'abord des sciences humaines qu'il est question. Les religions sont et restent certes un objet de ces sciences que sont la psychologie, la psychanalyse, la sociologie, l'histoire, l'ethnologie. Donc, elles restent un objet de ces sciences, mais elles ne sont plus, ou pas du tout, des partenaires du débat. À ce moment-là, c'est une nouveauté, maintenant c'est acquis, évidemment, mais à ce moment-là, c'est une nouveauté et une surprise. Certeau ne le dit pas, mais là c'est moi qui vais le dire, c'est au fond une séquence historique qui se termine à ce moment-là, qui est celle de l'après-guerre. Je me suis rappelé, en préparant ce texte, qu'après tout, cette période d'après-guerre avait débuté en 1944 par une discussion restée célèbre, une discussion sur le péché, hein, qui réunissait vraiment un gratin intellectuel extraordinaire. Je les cite dans l'ordre alphabétique où je les ai retrouvés sur Internet. Arthur Adamoff, Maurice Blanchot, Pierre Burgelin, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Jean Danielou, Dominique Dubarle, Maurice de Gandillac, Jean Hippolyte, Pierre Klossowski, Michel Léris, Jacques Madol, Gabriel Marcel, Louis Massignon, Maurice Merleau-Ponty, Jean Paulhan, Pierre Prévost et Jean-Paul Sartre. Alors bon, c'est un peu une liste à la Prévert, si on veut, mais quand même, c'est étonnant. Donc, on pouvait encore se retrouver à ce moment-là, qui n'était pas encore l'âge des sciences humaines, autour d'une table pour discuter d'une notion chrétienne et occidentale qui est le péché, et pour discuter en quelque sorte de la vérité du péché. Plus tard, dans les années 50 et encore 60, mais je pense qu'une partie de l'Assemblée qui est ici a encore connu cela, il y a eu les semaines de la pensée catholique et même les semaines de la pensée marxiste, où l'on invitait mutuellement des intellectuels du bord opposé, ou pensant autrement, et au fond, on continuera cette tradition. On discute d'une question, de la vérité, d'un problème. Or, à la fin des années 60, c'est fini. Ces semaines périclitent rapidement. Dans un rapport interne aux jésuites de 1966, le père Chambre, spécialiste du marxisme, l'avait déjà dit autrement, et pour s'en alarmer, évidemment. Je le cite, « La posture scientifique adoptée par les nouvelles sciences de l'homme ne considère pas la religion comme un possible interlocuteur, mais seulement comme un objet d'étude parmi d'autres. » Pour traduire ça, si je voulais frapper la formule, on ne discute plus. On ne discute plus. La discussion, le temps de la discussion est passé, parce que le statut des religions, les religions ne sont plus un interlocuteur dans la discussion des sciences humaines. Pour ces dernières, en effet, les manifestations religieuses sont d'abord et intrinsèquement des produits. Peut-être dirait-on aujourd'hui des constructions. Des produits parmi d'autres phénomènes socioculturels. Alors que, évidemment, et de façon très normale et logique, pour le théologien ou l'intellectuel croyant, elles annoncent une vérité essentielle, en l'occurrence, pour résumer, l'action de Dieu dans une histoire. Dans ce cadre, les théologiens éclairés sont évidemment en droit d'établir la distinction entre foi et religion, dont nous avons parlé ce matin. Avec quelle nuance chez Ricoeur, parce que personnellement j'ai le souvenir d'une distinction extraordinairement vulgarisée, hein, c'est-à-dire vraiment il fallait insister sur la foi pour sauver la religion. C'était simple, c'était consolant, c'était un peu juste quand même, il faut le reconnaître, comme raisonnement. Donc, les théologiens, mettons qu'ils, théologiens éclairés, peuvent faire la distinction entre foi et religion, pour préciser le sens de la foi ou la valeur de la foi et tenter de la purifier des interférences religieuses fâcheuses, pas seulement la superstition ou la magie ou les miracles ou le mythe, mais aussi les béquilles superflues, les rites de toutes sortes, le culte, les institutions, etc. En revanche, cette distinction foi-religion n'intéresse plus ou pas du tout les sciences humaines, qui n'ont affaire qu'à des énonciations avec des signes ou intégrées dans des systèmes de signes. Pour un historien, par exemple, rendre intelligibles les faits religieux, c'est les insérer dans l'intelligibilité totale ou dans l'intelligibilité plus globale des systèmes sociaux, politiques, économiques, culturels de l'époque concernée. À ce sujet, Certeau ne reprend pas à son compte l'expression les philosophies du soupçon. Mais ce qu'il décrit n'est pas très différent du soupçon philosophique décrit par Ricoeur. Je cite Certeau. Le fait religieux parle de Dieu, de grâce, de libération par la foi. Mais, je le cite encore, le contenu religieux cache les conditions de sa production. Il est le signifiant d'autre chose que ce qu'il dit. C'est une allégorie à déchiffrer, le déguisement d'un mode de production que l'analyse scientifique se donne pour tâche de reconstituer. Le psychanalyste, tout comme le sociologue ou l'historien, est celui qui ne se laisse pas prendre au leurre des représentations et qui sait y déceler un autre signifié que le sens immédiatement affirmé. Alors que, je le cite encore, les affirmations religieuses prétendaient dire la vérité ou le sens de la vie sociale ou individuelle, En réalité, ce sont aujourd'hui des modèles socio-historiques ou, comme disait Freud, des mécanismes psychologiques qui les expliquent. Je pense que ce qu'il y a peut-être de plus ou d'autre chez Certeau, quand il dit ces phrases qui expriment au fond des choses assez connues, en tout cas sur la définition du soupçon envers les religions, il parle en praticien des sciences humaines, c'est-à-dire il y a toujours cette présence, cette présence en lui d'une pratique d'historien et, on pourrait dire, frotté de beaucoup d'autres sciences humaines. Alors évidemment, je suis parfaitement conscient que nous sommes très habitués aujourd'hui à ces constats. Nous sommes très habitués, mais quand on regarde la réalité, des phénomènes religieux aujourd'hui, on a l'impression que tout ceci n'a jamais été su ou a été totalement oublié par un certain nombre. Bon. Mais donc, en tout cas, nous, dans cette assemblée, nous sommes habitués à entendre ce discours. Nous l'avons peut-être même trop entendu. Mais à l'époque, on n'en avait pas pris la mesure. Il en résulte deux constats pour terminer cette présentation, cette première partie. Pour les sciences humaines, le religieux est un matériau comme les autres. Et bien entendu, la sociologie religieuse, la psychologie religieuse, l'histoire religieuse n'ont en fait rien de religieux. Ce sont avant tout des sciences humaines qui ne parlent pas de vérité, mais décrivent des objets en fonction de certaines méthodes et de certains postulats. Je pense qu'en disant cela, Certeau réagissait contre les attentes chrétiennes par rapport aux sciences religieuses. Par exemple, je l'ai déjà rappeler une purification de la foi, une vérité plus profonde, plus admissible pour les modernes, etc. Or, les sciences humaines font silence sur les questions de sens. Et d'autre part, elles les déhiérarchisent. Exactement comme on fait, mettons, sur les plateaux de télévision où les acteurs, justement, de l'énigme religieuse peuvent être tout à fait plurielles. Il y a un prêtre, il y a un gourou, il y a autre chose, un psychanalyste forcément, un psychanalyste grand public évidemment. Les prêtres du sens sont légion. Ou encore, comme ça se passait un peu moins aujourd'hui, parce qu'il y a eu des critiques après sur ce point, dans les librairies qui instauraient des rayons de spiritualité, à la place de la religion d'ailleurs, où tout était mélangé en fonction du marché des sagesses et des religions. Donc c'est le marché, l'audimat qui joue le rôle principal. C'est le premier constat. Mais l'autre constat, qui n'est pas dit ou qui n'est pas souvent dit, notamment par les sciences humaines elles-mêmes, c'est que dans l'analyse des religions, il y a quelque chose qui échoue, plus encore peut-être que dans d'autres disciplines. Ce qui n'est pas dit, c'est qu'au fondement des sciences humaines, il y a une articulation, je cite Certeau là, il y a une articulation avec ce qu'elles taisent, quelque chose qu'elles ne peuvent effacer dans leur rationalité de sciences humaines. C'est-à-dire, ou quelque chose qu'elles ne peuvent effacer que superficiellement ou provisoirement. Et ce quelque chose, c'est la référence à un vouloir, je cite, la requête d'un désir ou l'exigence d'un sens. On pourrait dire qu'elles ne peuvent effacer l'événement qui les met en marche, en tant que science. Et cet événement, c'est précisément la quête d'un sens et ses formes innombrables chez, au fond, les humains en tant qu'humains. C'est toujours pour prononcer le mot qui prend alors une place extraordinaire dans la pensée de Certeau, une altérité irréductible qui est à l'origine d'une opération scientifique toujours provisoire, contestable, qu'il est obligatoire de recommencer et de continuer encore et encore. L'universel des sciences est ainsi confronté à la particularité historique, religieuse en particulier, qui renaît sans cesse et la remet en cause. Les révolutions des années 60 sont aussi nées, Certeau le rappelle, d'exclusion et d'oubli sociaux, de refoulés sociaux qui reviennent, les Noirs, les colonisés, les femmes, les jeunes, constitués en planète à ce moment-là. Certeau décrivait ça assez bien dans la prise de parole, le livre sur mai 68. Je rappelle aussi qu'au fond, dans les années 80, il y a un mot, un mot typique, au fond, qui deviendra dominant dans le social, c'est exclusion. On s'est mis à parler à ce moment-là, les exclus. Qui n'était pas un terme qui était peut-être employé, mais qui n'était pas devenu un terme qui s'est imposé dans la société et dans la politique. En ce sens que je viens de dire, les sciences humaines sont par définition des sciences de l'autre. Elles mettent au jour de l'autre lointain, social, culturel, et de l'autre proche, voire intime, intérieur. En tout cas, toutes les sciences humaines, ethnologie, sociologie, histoire, psychanalyse, etc., quand on les regarde de ce point de vue, on voit bien qu'elles établissent un rapport entre le pensable qu'elles essayent effectivement d'analyser et un impensé irréductible, impossible à éliminer. Donc, il y a une tension entre un même et de l'autre qui ne cesse de revenir. Alors, peut-être un tout dernier mot à ce sujet. Ce constat concerne aussi et particulièrement, puisque c'est de cela qu'il est question dans l'article et dans la plupart des articles de La faiblesse de croire, ce constat concerne aussi le christianisme, je cite, « une fois qu'on cesse de l'envisager comme une série d'énoncés et de représentations introduisant des réalités profondes dans le langage, ou comme la somme des conséquences à tirer de quelques vérités reçues. C'est à partir de là qu'il est pensable. À partir d'une histoire présente et passée, en l'occurrence d'un événement qu'il a instauré, Jésus-Christ, et qui est toujours autre, particulier. Donc à partir de cet événement, le croyant est placé devant l'interrogation sur ce qu'il rend possible, ce qu'il permet, ce qu'il peut susciter de fidélité ou de différence dans une culture nouvelle. » Vous voyez, enfin, les mots, il serait très important de commenter longuement cette phrase, mais c'est vrai, une fois qu'on envisage, une fois que l'on cesse d'envisager, pardon, de regarder la religion, mettons l'Église, comme une série d'énoncés, ou comme un dépôt de la foi, comme on disait parfois en théologie, eh bien, on pourrait l'envisager comme effectivement une altérité toujours présente, la présence d'un événement instaurateur, et donc la nécessité, pour celui, bien sûr, qui est concerné par cela, de vivre une rupture instauratrice. Il y a des traces et des écritures qui parlent de Jésus. Elles donnent des indications sur ce qu'il a dit et fait. Mais ce qui importe, c'est ce que ces traces autorisent, permettent, ouvrent en son nom, comme possible place faite à l'autre. Au fond, la question est toujours, traduit encore, quelle fidélité et quelle différence par rapport à cet événement initial pour celui qui se dit chrétien. Voilà très rapidement présenté. Donc, vous voyez, c'est en fait l'analyse de la société et l'analyse de ce qu'introduisent les sciences humaines qui est presque la première partie ou la longue introduction de l'article sur la rupture instauratrice, hein, qui est beaucoup plus long ensuite et qui déploie un peu ce que peut signifier à ce moment-là, dans une société qui fait cela de la religion, que peut signifier le fait d'être croyant ou comment donner une pertinence à la croyance. Alors maintenant, quelques rapides évaluations. Alors évidemment, nous sommes 40 à 45 ans après ces analyses. Je crois qu'il n'y a pas grand sens, comme on le voit, on l'entend parfois, à établir la liste ou une liste de ce qui reste pertinent et de ce qui est périmé. La dernière fonction que Certeau aurait revendiquée, je crois, c'est celle du prophète, au sens vulgaire du terme, celui qui prédit l'avenir. Quelques remarques simplement. Il est vrai que les années post-68 ont été celles d'un extraordinaire sentiment de décrédibilisation des autorités religieuses instituées, des institutions reçues, des doctrines reçues, etc. Alors on cite souvent du reste, en dehors de l'Église, deux autres grands piliers, l'école et l'armée, qui en ont pris un coup très fort sur leur autorité et leur pertinence. Mais je crois qu'il faudrait y ajouter aussi, on y a fait allusion ce matin, la représentation politique des démocraties, l'indétermination démocratique, la désertion des partis et des syndicats, la famille qu'on a appelée à ce moment-là autoritaire, hein, et qui méritait une critique importante. Donc il y a d'autres institutions qui commençaient à fléchir sérieusement. Michel de Certeau parlait de défection, c'est-à-dire quelque chose se défait et quelque chose fait défection à ce moment-là. Et le christianisme en fait partie. Il perd son monopole de religion représentative, historique, en France et en Europe. Le christianisme éclate, se pluralise. Cette pluralité a un aspect extrêmement important. Il se pluralise en interne et en externe, il doit laisser la place sur la scène à d'autres religions, à l'époque surtout celle de l'Asie, mais aussi à des croyances de contrebande, communautaires, individualistes, etc. L'intérêt pour les religions se déplace de leur centre à leur périphérie. C'est une citation de Certeau, pas du pape François. Elle se trouve dans Lieu de transit, publié dans Esprit en 73. Alors certes, on voit bien que le grand absent de son actualité, par rapport à la nôtre, c'est l'islam, qui est pour nous le grand omniprésent. En revanche, ce que Certeau a très bien vu monter, c'est la vague évangélique protestante qui mettait à porte-à-faux la théologie moderne et ses rationalités. Alors je vous renvoie justement à ce texte qui se trouve aujourd'hui aussi dans La faiblesse de croire, qui est intitulé « Lieu de transit », qui est un texte d'ailleurs assez... Il est presque amusant, parce que c'est un texte assez ironique où il décrit un immense congrès de théologiens à San Francisco, dans un hôtel absolument luxueux. Et puis, lui, il va, on lui propose la visite et il y va d'une petite communauté charismatique ou évangélique ou pentecôtiste dans les montagnes à 70 km au nord de Los Angeles. Et alors, il fait un rapport entre les deux qui est presque amusant à lire. Il ironise de façon, enfin, quand on le lit à un certain niveau, c'est très ironique par rapport au congrès de théologiens. Ce qui est vrai, c'est que la suite n'a pas confirmé la désinstitutionnalisation des grandes religions. Elles se sont affirmées à nouveau dès la fin des années 70. Bon, vous le savez bien, dans le catholicisme par la réidentification autour de Jean-Paul II, dans le protestantisme par la vague fondamentaliste qui a commencé à le submerger mondialement. Le bouddhisme tibétain aussi s'est affirmé en France et en Europe assez faussement d'ailleurs par rapport à la réalité asiatique, à travers le Dalai Lama, mais aussi s'est affirmé à partir de ce moment-là l'islamisme, et l'islam politique à travers la révolution iranienne de l'ayatollah Khomeini, cet événement qui frappa tant Michel Foucault. Et on lui reproche encore, à mon avis, en relativement grande partie à tort, d'avoir été frappé, tant frappé par cet événement. Alors, évidemment, mais ce n'est pas le lieu, il faudrait s'interroger, pourquoi ce retour en force, pourrait-on dire, non seulement des multiples religions, des petites religiosités, mais aussi des grandes religions. Dans un article, je crois, de l'Encyclopédia Universaliste de 1977, il y a une phrase que j'ai souvent employée pour expliquer la chose, une phrase un peu lapidaire de Certeau. Elle serait peut-être encore valable aujourd'hui. Quand le politique fléchit, le religieux revient. Donc, en tout cas, ça peut nous donner à penser. C'est-à-dire quand il y a une incapacité politique de résoudre les problèmes de la cité, quand il y a une déception, comme c'est quand même le cas, par rapport aux attentes utopiques des années 60-70, on comprend très bien que la religion puisse revenir avec des fonctions multiples. Une des fonctions des années 60, des années 80, et puis depuis, je crois, et ça n'a fait que s'accentuer par certains côtés, c'est que les réaffirmations du religieux ont été très vite identitaires, dans un contexte mondialisé qui dissolvait les identités et qui déterritorialisait les cultures, mais ça, Olivier va en parler tout à l'heure. Et enfin, évidemment, identitaire a finalement coïncidé aussi avec l'instauration d'une violence religieuse tout à fait inédite, tout à fait absente des années 60-70, où au contraire, on aurait peut-être plutôt insisté sur, je ne sais pas comment dire, le côté presque émollient des Jesus people, des... Vous voyez, enfin, peace and love, quoi, hein, qui était plutôt ça, le thème des années 60. Et au fond, on imaginait assez bien que les religions rejoignent ce mouvement-là et non pas le mouvement de la violence. Moi, je crois que sur le fond, cela ne contredit pas l'analyse de Certeau. Lui-même a toujours été très évolutif sur ce sujet, c'est-à-dire sur l'évolution rapide, justement, du religieux. Ce qui nous a encore valu quelques textes tout à fait intéressants à la fin des années 80, peut-être même encore un peu après. Mais bien sûr, je comprends parfaitement. Pour Michel de Certeau, de toute façon, je pense, la centralité religieuse qui est revenue avec les grandes religions, il n'aurait pas pu le considérer comme le retour de l'ancien. Bien sûr, un catholique traditionnel pourra toujours interpréter le succès et même l'amplification, parce que c'est ça qui s'est passé, l'amplification de la popularité du pape comme la confirmation de la vérité catholique après des années de tourmente post-conciliaire, ou encore un bon protestant pourra toujours, conformément à sa tradition protestante, y voir l'indéracinable idole romaine, hein, tout ça, je comprends, mais Certeau aurait peut-être dit, dans ce cas-là, tous les deux s'empêchent de lire le nouveau fonctionnement du religieux et de l'autorité religieuse à l'époque postmoderne. Un fonctionnement qui, en fin de compte, a peut-être en tant que tel peu à voir avec la religion, justement, mais beaucoup avec les phénomènes du pouvoir et de l'autorité dans nos sociétés post-démocratiques. Bon, je pourrais continuer, mais je ne veux pas être trop long, et puis je dois achever aussi, je vois que j'ai déjà dépassé presque l'heure. Mais disons, ce qui se passe alors, c'est que l'expression religieuse et sa visibilité marquée semblent grandir à partir de ce moment-là hors sol, pour ainsi dire, c'est-à-dire sans leur corps de tradition doctrinale et théologique, sans leur culture propre, et surtout en opposition totale ou sélective par rapport à la culture moderne. Je pourrais en lire un signe aussi, quelque chose qui m'a beaucoup frappé forcément comme éditeur, qui a été à partir de ces années-là, en tout cas dans les années 80, il a été pratiquement impossible de recenser quand même, en France, un seul livre de théologie, ou pratiquement pas de livre de théologie, dans la rubrique des livres. Hein, c'est encore le cas aujourd'hui. La théologie n'existe pas en quelque sorte. Enfin, elle existe pour le journal La Croix, et encore à un degré faible, mais parfois un petit peu dans Réforme ou dans La Vie, enfin que sais-je encore. Mais on a l'impression que la théologie n'est pas quelque chose qui est pertinent en France. Et connaissant assez bien l'Allemagne, qui est dans une toute autre situation religieuse, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on n'en est pas si loin. J'ai fait allusion aussi au rôle du marché. On a même parlé, donc, livre publié par Olivier Roy, enfin par un ami d'Olivier Roy, au Seuil, d'un islam de marché. On parle aussi, à propos des fondamentalistes protestants, de l'évangile de la prospérité, hein, donc pour marquer le rapport à l'économique. Le religieux prolifère, mais avec des réemplois multiples. Donc, contrairement aux plaintes récurrentes, à mon avis, ce n'est pas du tout le vide de sens qui marque notre société, c'est le trop-plein. Hein, c'est-à-dire dans des jeux multiples de concurrence aussi, etc. Alors, je termine ces petites analyses encore en disant que la question de la foi et de la religion devient pour Certeaux, à partir de, disons, vers les années 80, celle du croire. Hein, c'est-à-dire son attention se déplace vers une anthropologie du croire, c'est-à-dire vers une pratique sociale de la différence, pour reprendre un article programmatique de 79. Je crois que le mot différence signifie pratiquement altérité, c'est-à-dire une pratique sociale de l'altérité. Entre les altérités, le rapport n'est pas seulement celui d'un savoir, hein, de l'un connaissant l'autre, ce n'est pas non plus celui d'un voir, l'un voyant l'autre et réciproquement. Les rapports de deux altérités, c'est aussi des rapports entre un croire qui peut s'exprimer selon des modalités humaines multiples, individuelles ou collectives, contractuelles ou non, mais où toujours l'action, le faire, a un rôle essentiel. C'est aussi à ce moment-là, et Luc Giard est co-signataire du livre, enfin du tome 2, hein, c'est de là que date l'invention du quotidien de ces années-là, c'est-à-dire des arts de faire, pour le Thomas, qui porte ce titre, Art de faire. Bon, ce dernier Certeau a suscité à son tour déjà de nombreux travaux, des questionnements chez les sociologues. Je dirais peut-être simplement ceci, et je termine là-dessus. Dans ces années-là que j'ai traitées au début des années 70, la question pour lui, je crois, était beaucoup plus celle de la crédibilité. C'est-à-dire, quelle est la crédibilité ? C'est-à-dire, il se situait plutôt du côté des objets religieux que du côté du sujet croyant. Bon, la différence est ténue, mais c'est un peu l'évolution qu'il a subie dans ces années-là. Alors, moi je dirais peut-être ceci pour terminer. Disons, on voit bien qu'un esprit prévenu contre ces analyses sera peut-être tenté. On voit bien comment ça peut se faire aujourd'hui, mais ça avait déjà lieu à l'époque où Certeau s'exprimait. On voit bien comment ces tentatives ou ces analyses peuvent être considérées comme une manière de relativiser, voire de noyer le christianisme, en ce sens qu'il ne serait plus que une croyance ou un croire parmi d'autres. Que la question se soit posée pour Certeau, et d'ailleurs aussi pour de nombreux croyants sérieux de l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, enfin j'espère presque, maintenant que nous baignons de toute façon dans la pluralité et la sécularité religieuse encore bien plus qu'en 70, donc que la question se soit posée personnellement pour lui me paraît évident. Mais en même temps, sa critique permanente contre toute connaissance scientifique qui prétendrait clore ou évacuer la question de l'autre, de l'altérité dont elle est née, est plutôt dirigée quand même contre le positivisme scientifique éventuel des sciences humaines. Hein, je crois qu'en ce sens-là, il était bien aussi, je dirais, disciple de Lacan, finalement, en psychanalyse, mais aussi, enfin, disons, c'était des convictions qui l'habitaient extrêmement fortement. Alors, je comprends très bien, enfin, l'ayant connu, je peux même le dire, je comprends qu'il soit apparu à l'époque inquiétant, dangereux, que sais-je encore, dans l'Église. Mais quand on lit bien ces textes, et notamment la rupture instauratrice, on trouve aussi une critique très ferme de tout positivisme et de toute prétention impérialiste des sciences humaines ou des théories de la sécularisation. Alors, comme je n'ai pas du tout parlé de l'aspect positif de la rupture instauratrice, de la rupture à instaurer, je lis juste quelques lignes de la fin d'un autre texte qui suit la rupture instauratrice et lieu de transit, qui s'appelle « La misère de la théologie ». Je lis juste quelques mots de la conclusion. « Faire place aux proches, ce sera céder la place, peu ou prou mourir et vivre. Ce n'est pas la passivité, ce n'est pas la passivité, mais combat pour faire place à d'autres dans le discours, dans la collaboration collective, etc. Ce travail d'hospitalité à l'égard de l'étranger est la forme même du langage chrétien. Il ne se produit que partiellement, il reste relatif à la place particulière qu'on occupe. Il n'est jamais fini, il est perdu, heureusement noyé dans l'immensité de l'histoire humaine. Il s'y efface comme Jésus dans la foule. » Et encore un mot, disons, « On pourrait dire, alors que l'autre est toujours pour nous menace de mort, le croyant, par un mouvement déraisonnable, en attend aussi la vie. » Merci.
Merci. Même si cette communication appelle des questions, il est prévu d'en poser, mais après la communication d'Olivier Roy, donc réservez-les pour 15h20, en sorte que vous pourrez poser des questions aussi bien à Olivier Roy qu'à Jean-Louis Schlegel à ce moment-là. Donc c'est l'occasion de donner tout de suite la parole à Olivier Roy, qui est depuis 2009 un professeur à l'Institut universitaire européen. On le connaît d'abord pour être le grand spécialiste du monde arabo-musulman, menant sa réflexion sur le rapport du religieux et du politique et s'attachant tout particulièrement évidemment à la question de l'islam. Les ouvrages sont très nombreux. Je ne cite que les derniers, « En quête de l'Orient perdu »,« Le seuil 2014 »,« La peur de l'islam » aux éditions de l'Aube. Et il nous parle aujourd'hui de la nouvelle religiosité comme disjonction entre foi et culture. Nous l'écoutons.
Merci beaucoup. Ce que je vais dire s'appuie évidemment sur mon livre « La Sainte Ignorance », qui est le livre où je traite spécifiquement de cette question. J'ai été frappé là, en écoutant les autres communications, de la manière dont on situe Paul Ricoeur et Michel de Certeau par rapport à une période qui aurait été la grande période de la sécularisation, et on s'interroge sur la pertinence de leurs écrits du fait qu'on n'est plus dans la grande période de sécularisation, mais dans le retour du religieux. Je dois dire que je suis en total désaccord. Je pense que la sécularisation a gagné, c'est fait, hein. Et que ce qu'on appelle le retour du religieux correspond en fait à une visibilité du religieux, parce que de même que quand la mer se retire, on voit quelques flaques qui restent sur le bord de la plage, et que ces flaques sont visibles, hein, avec tous les crabes qu'il peut y avoir dedans, le religieux est visible parce qu'il n'irrigue plus la société, hein, parce que il est... Je ne dirais pas résiduel, parce qu'il a sa dynamique propre, hein, je ne nie pas du tout les nouvelles dynamiques religieuses. Ce que je dis, c'est qu'on le voit parce qu'il détonne, parce qu'il paraît en contraste avec la société. Bon, quelques exemples tout bêtes. Quand j'étais jeune, voir un curé en soutane ou une bonne sœur faisait partie du paysage quotidien. Aujourd'hui, à Paris, si vous voyez une jeune bonne sœur en cornette, vous vous retournez jusqu'au moment où vous apprenez que c'est un travelo qui va à la Gay Pride, et dans ces cas-là, tout le monde dit ah, « ben, c'est normal, ouf hein, !» Bon, alors je ne parle pas du voile et du minaret, mais on porte sur l'islam aujourd'hui un regard qui, à mon avis, est le regard qu'on porte sur les religieux en général, sauf que sur l'islam, évidemment, pour des tas de raisons, y compris des raisons politiques, géostratégiques, etc., c'est surchargé, hein, surdéterminé. Mais derrière ce qu'on appelle l'islamophobie, il y a une phobie du religieux, et en particulier une phobie du signe religieux. L'Église catholique, les évêques n'arrêtent pas de se plaindre, justement, d'être une minorité souffrante, d'être victime. Non pas de persécution, ils ont le sens de la mesure qui va avec leur fonction, mais de l'incompréhension du religieux, et du mépris dans lequel le religieux est tenu aujourd'hui. La Manif pour tous, qui a été soutenue par l'Église, c'est pas un mouvement d'extrême droite, de nostalgique, de je ne sais quoi. La Manif pour tous a été très brièvement l'espoir d'une reconquête, et s'est vite transformé en ghetto, où ils ont compris que, bien non, on n'est pas dans une reconquête de la société, en tout cas en ce qui concerne les valeurs qui sont tenues pour, et les normes qui sont tenues pour fondamentales par l'Église, mais qu'on est une minorité, et donc une minorité souffrante, parce que qui se vit comme brimée. La sécularisation a gagné. Alors, c'est pas seulement une question de visibilité, c'est aussi une question de pratique religieuse. Les gens disent, ah, la pratique augmente. Non, la pratique baisse. Bon. Alors évidemment, ça dépend de ce qu'on prend comme statistique. Si vous prenez les journées mondiales de la jeunesse, vous voyez que on a commencé à 300 000 et on finit à 3 millions. Hein. Donc on a une courbe croissante de jeunes qui vont voir le pape une fois par an. Mais si vous prenez la courbe des entrées dans les séminaires, vous la commencez au même moment qu'a commencé les journées mondiales de jeunesse, et elle va dans ce sens-là, elle descend. C'est-à-dire qu'on pourrait en conclure, si on était un peu anticlérical, que plus les gens voient le pape, moins ils vont au séminaire. Alors, je ne suis pas un causaliste, et donc je n'en tire aucune conclusion, je dirais simplement, les jeunes qui vont voir le pape ne sont pas intéressés à devenir des curés. C'est pas le séminaire qui les intéresse, c'est pas l'Église qui les intéresse. Disons, une mutation dans le type des vocations. Oui, ça c'est clair. On sait que maintenant, les jeunes qui vont au séminaire ne le font plus sur les motivations, sur la même théologie ou sur la même religiosité que leurs aînés d'il y a 50 ans. Bon, ça tout le monde le sait. Les confréries, comme la confrérie Saint-Martin, la fraternité Saint-Martin, pardon, recrutent beaucoup plus que les séminaires classiques. Mais la statistique totale revient exactement au même. Il y a de moins en moins de prêtres. Point. On dit oui, mais c'est l'exception européenne. Dans les autres pays du monde, la religiosité monte. Aux États-Unis, non. Elle baisse aussi. Et quand on dit en islam, dans les pays musulmans, il y a une augmentation de la pratique religieuse. Alors là, déjà, il y a un problème de méthodologie, de sociologie. On n'a pas de mesure. L'avantage de l'Église catholique, c'est que c'est une bureaucratie. Donc elle a des statistiques, elle a des rites obligatoires. Bon, vous devez aller à la messe si vous êtes un bon catholique. Donc il suffit de se mettre à l'entrée d'une église et de compter les gens qui viennent. Bon, la sociologie des religions adore l'Église catholique parce que pour les statistiques, c'est génial. Mais évidemment, les évangéliques, les salafistes, là, c'est beaucoup plus compliqué pour mesurer. Ceci dit, ma théorie de la sécularisation fonctionne dans les pays musulmans, et que c'est justement pour ça que l'islam est en crise. Le Pakistan est un exemple typique, où c'est probablement le pays où on a la plus forte vague populaire d'islamisation, de radicalisation. Ailleurs, la radicalisation, elle n'est pas populaire, elle est minoritaire. Au Pakistan, on a une très forte, on a une capacité de mobilisation populaire sur la question du blasphème, qui est absolument considérable. Et en même temps, on voit très très bien, quand on étudie ce que j'ai un peu fait avec d'autres, l'évolution du système éducatif depuis 50 ans, comment les madrassas ont été en fait exclus du système d'enseignement, se sont spécialisés sur la religion et ne sont devenus que des fabriques de religieux, alors qu'autrefois elles étaient des universités qui formaient une culture globale, une culture traditionnelle, classique, bien entendu, mais où vous appreniez aussi bien la langue, la poésie, la littérature, l'oniromancie, j'ai jamais compris pourquoi, mais il y avait des cours d'oniromancie, l'astronomie, astrologie, etc., etc. Aujourd'hui, c'est fini. Vous n'apprenez que le fiqh. Parce que toutes les autres disciplines sont enseignées dans le système gouvernemental qui est totalement sécularisé, même s'il y a des cours de religion obligatoires, et qui fonctionnent mal, en plus. Bon, ce qui explique aussi l'aggravation des tensions. Donc, il y a une, si vous voulez, on a la disparition aujourd'hui de la religion populaire. Bien sûr, elle demeure à titre de folklore. Mes collègues anthropologues adorent l'Italie du Sud parce que vous avez plein de manifestations de religions populaires, sauf que le curé n'est jamais dans les là où se passent les vrais phénomènes de religion populaire. Le curé se détourne d'ailleurs de plus en plus. Bon, il y a des petites histoires sur l'Italie récemment, sur les processions de la Vierge en honneur du chef de la mafia locale. Bon, et le pape a dit stop. il prend très très nettement pour d'autres raisons, pas parce qu'il est contre la religion populaire, hein, mais parce que cette religion populaire obéit à des logiques locales qui vont à l'encontre du message que délivre le pape aujourd'hui. Bon, enfin, ça c'est... qu'est-ce que ça veut dire la déculturation du religieux? Ça veut dire que, en gros, si on prend l'histoire de la laïcité, c'est très clair. Quand Jules Ferry a fait sa fameuse lettre aux instituteurs, qui a été rééditée récemment par Daniel Tillinac, et je vous conseille de la lire, parce que on se dit, mais nous ne sommes pas des Jules Ferristes aujourd'hui. On n'est pas du tout dans la laïcité de Jules Ferry. Jules Ferry disait à l'instituteur qu'il n'enseignera rien qui puisse choquer un père de famille. Hein. Il ne parlait pas des mères de famille, évidemment, à l'époque. Ce qui veut dire que pour Jules Ferry, la morale pratique était la même. Bon, et c'était la même, la définition de la famille. Hein. Jules Ferry, mariage homosexuel, je ne suis pas sûr que, bon, la définition du couple légitime, illégitime, les enfants illégitimes, la morale dans la société, etc. En gros, si vous voulez, la morale laïque était une morale chrétienne laïcisée. Hein. Or, on a la rupture anthropologique des années 60, celle justement qu'a vécu De Certeau, et il dit des choses très intéressantes là-dessus. C'est une rupture anthropologique, c'est-à-dire à un moment donné, la société, appelez-la civile, tout ce que vous voulez, commence à produire un système de valeurs qui est en opposition avec la loi naturelle, je dirais pas avec la théologie, la question n'est pas théologique ici, hein, en opposition avec la loi naturelle. L'Église catholique, contrairement au calvinisme et contrairement au salafisme, avait un concept très pratique avec celui de loi naturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être croyant pour, dans le fond, suivre les normes et les valeurs de l'Église. Bon. Alors que pour un calviniste et un salafiste, ou un Lubavitch, c'est autrement plus compliqué. Mais pas pour l'Église catholique. Or, et ça le cardinal Barbarin l'a dit très clairement, au moment du vote sur le mariage pour tous, il a dit c'est une rupture anthropologique. Il a raison. Hein. On peut la déplorer, l'approuver, peu importe. Hein. Mais d'un seul coup, il n'y a plus de loi naturelle, ou plus exactement, la société civile ne reconnaît pas la loi naturelle telle que l'a définie l'Église. Et là, on est dans une rupture culturelle. C'est pas une question de foi, ici. Donc, les croyants, si vous voulez, ce qui dit la communauté religieuse se redéfinit comme communauté de foi, et non plus comme dans le fond ce que je pourrais appeler la spiritualité de la société, valant pour toute la société. Et donc disparaît ceux qui faisaient le bonheur de la sociologie religieuse, le bras, etc. C'est-à-dire toutes les catégories intermédiaires, hein. Le croyant nominal, le croyant pratiquant moyen, le croyant pratiquant supérieur, etc. Vous savez, ces vieux trucs, va à la messe tous les dimanches, va à la messe une fois par mois, va à la messe uniquement à Noël et à Pâques, etc. Tout ce qui faisait que, dans le fond, il y avait tout un tissu social entre l'athée et le prêtre, tout ça disparaît. Et de plus en plus, toutes les religions aujourd'hui se restructurent comme communauté de foi. Le terme communauté dans l'Église catholique maintenant remplace de plus en plus souvent le terme de paroisse. Et on voit que justement, ceux qui marchent, ce sont les fraternités non territoriales, c'est-à-dire qui ne dépendent pas de l'autorité d'un évêque, même si le prêtre ensuite exerce sous l'autorité de l'évêque, comme la fraternité Saint-Martin par exemple. On a une mutation à l'intérieur de toutes les religions qui ont parfaitement pris en compte cette déculturation. Parce que là, on est dans un... Si vous voulez, soit on est dans la déploration, ce qui était un petit peu Benoît XVI. C'est-à-dire, Benoît XVI disait, la culture de l'Europe est maintenant une culture païenne. Et il disait, comme Jean-Paul II, il faut revenir à la foi. C'est-à-dire, ça ne sera une vraie culture chrétienne que si elle est réinformée par la foi. Il faut faire revenir la foi. Sinon, c'est une culture de la mort. Bon, ils étaient très très clairs là-dessus. Parce que leur nostalgie, c'était effectivement celle d'une Europe chrétienne. Tandis que les nouvelles communautés de foi s'assument parfaitement comme minoritaires. comme le camp des saints, comme ceux qui sont sauvés ou qui sont sur le chemin du salut. Bien entendu, ils se sentent une obligation de prosélytisme, une obligation de ramener à la vérité, mais ils savent qu'ils sont en terre de mission. Comme disait l'abbé Godin, que la société à laquelle ils s'adressent est une société qui n'est pas seulement profane, mais qui est païenne. Que ça soit les évangéliques, toutes les formes de charismatisme dans le christianisme les formes de salafisme. Il n'y a pas que le salafisme en islam, hein, il y a le tablir, il y a d'autres formes, mais on va simplifier un petit peu. Ou bien justement chez les rabbins, chez les juifs, hein, qui vont judaïsme au sens religieux, hein. Les juifs nominaux, hein, comme le tablir, essaient de réislamiser les musulmans nominaux. Hein. On n'essaie pas là, de faire un prosélytisme qui s'adresse aux autres, on essaie de ramener ceux qui ont eu un lien généalogique avec la communauté, dans la communauté, mais en définissant la communauté comme une communauté de foi. Et pas simplement de conformité ou de culture. Le mot culture est de plus en plus anathème, hein, dans ces milieux-là. On pourra en parler. Ce qui fait que à ce moment-là, c'est la foi qui devient centrale dans la définition du croyant. Et disons, quand on voit aujourd'hui, on a un espèce de double mouvement. Du coup, la laïcité, enfin la société séculière, ne comprend plus le religieux. Alors, comme elle ne comprend pas le religieux, elle veut soit le réduire, d'où la demande qui est tout à fait contemporaine, faite par la laïcité, de rejeter le religieux dans le privé. Hein. Si vous demandez aux gens dans la rue maintenant, c'est quoi la laïcité ? Je suis sûr que 9 sur 10 des personnes interrogées vont vous dire, ça veut dire que la religion doit rester dans le privé. Ce qui n'est absolument pas ni l'esprit, ni la lettre de la loi de 1905. La loi de 1905 ne dit rien sur le privé. Évidemment, une loi n'a rien à dire sur le privé. La loi de 1905 organise la pratique, parce qu'une religion, ce n'est pas seulement des opinions. Maintenant, on en fait comme si c'était tous les textes sur la liberté religieuse. Ils sont intéressants dans les textes juridiques. Hein, ils définissent toujours la religion, ils le mettent toujours dans un ensemble commun avec d'autres choses. La liberté de croyance, d'opinion et de religion est une liberté fondamentale, etc. Mais la religion est traitée comme une opinion, comme une croyance. Hein. Ce que n'est pas le point de vue du croyant. C'est pas une opinion. Hein. C'est aussi une pratique. Il n'y a pas de religion sans rite, sans pratique religieuse. Et donc, une religion ne peut pas simplement s'abstraire de l'espace public, du point de vue du croyant. Et puis, on dit, nul ne pourra être discriminé, en raison de sa race, de son sexe et de sa religion. Hein. Ici, la religion, c'est une identité. Voilà. Ça n'a rien à voir avec vos croyances. Comme vous êtes blanc, comme vous êtes noir, comme vous êtes homme, femme, ou maintenant on a ajouté de nouvelles catégories, vous êtes protestant, catholique, etc. Vous êtes religieux. Donc, identité et opinion, c'est les deux seuls moyens par lesquels la laïcité reconnaît le religieux. Et donc, pour elle, la foi, ça n'existe pas. C'est forcément donc du privé. Et d'où aussi l'appel à la psychologie. Justement, ça devient un phénomène psychologique, c'est-à-dire profondément individuel, et avec une dimension, disons-le, irrationnelle, forcément. Là aussi, le fait que la laïcité d'aujourd'hui soit une laïcité idéologique contribue à cette externalisation du religieux de la société en général, et donc confirme la coupure entre foi et religion. Mais alors, comme maintenant la foi est absolument centrale dans la définition du croyant, ça entraîne d'autres conséquences. C'est que cette foi est extrêmement fragile. Hein. Vous avez aujourd'hui toute une angoisse de la foi, qui se traduit par exemple par le retour à la question du blasphème, et pas seulement chez les musulmans. Chez les musulmans, enfin dans ce qui s'est passé avec l'affaire des caricatures, c'est à l'extrême, puisque ça a déclenché une réaction violente chez certains musulmans. Mais la question du Peace Christ, de Golgotha, de l'utilisation de la scène Chena, S-E-N-E, dans des publicités pour vêtements de femmes, a entraîné, dans une par l'Église catholique d'aujourd'hui, une réaction bon, qui, aux marges, est violente aussi. C'est une violence contrôlée, et puis en plus, il y a l'Église, il y a l'hiérarchie qui est là. Mais la hiérarchie a tourné cette violence qui s'apprêtait, dont certains ont, bon, le théâtre où il y a eu la scène Golgotha a été attaqué. Donc, Monseigneur 23 a tourné ça en souffrance. Hein. C'est-à-dire, on va prier toute une nuit, on va exprimer notre souffrance, qui est une idée maintenant centrale dans cette question de la foi. On souffre parce que dans le fond, on n'est pas compris et on est une minorité. Et cette foi, et la foi, dans quelle mesure est-elle solide ? Ça, c'est une quelque chose qui est importante, surtout dans les mouvements de type charismatique, protestant et aussi salafiste. S'interroger sur la profondeur de sa foi, la solidité de sa foi, la réalité de sa foi. Le terme foi, soit comme conviction sur des croyances archida, hein, soit comme foi spirituelle en Dieu iman, hein, les deux. Confiance en Dieu, si vous voulez. Les deux ont toujours existé dans l'islam. Mais aujourd'hui, c'est étonnant de voir la production de petits livres, etc., qui portent sur la question de renforcer sa foi, construire sa foi, solidifier sa foi, défendre sa foi, etc. C'est-à-dire sur insistant sur cette fragilité, dans le fond, du rapport à Dieu qui est individuel et qui est de moins en moins médiatisé. Dans l'Église, il y a encore l'Église comme institution. Mais chez les protestants, bon, chez les juifs, il y a la communauté, enfin, ça dépend lesquels. Hein. Mais chez les Lubavitch, chez les Haredi, vous avez une communauté, vous avez les rabbins, vous avez les sages, vous avez, bon, la communauté prend en charge votre angoisse, au prix, bien sûr, comme c'est, on le sait bien en psychologie, de toute une série d'interdits, hein, et de normes. Hein. Il faut suivre l'orthodoxie de la communauté, qui est une orthodoxie extrêmement précise, qui rentre dans le moindre détail de la vie quotidienne, vestimentaire, alimentaire, etc. Et là, la communauté prend en charge elle-même l'angoisse de votre foi. Mais chez les protestants charismatiques ou chez les salafis, là, il n'y a plus cette autorité-là. L'individu est, dans le fond, toujours responsable de montrer, de prouver qu'il a la foi. Donc, je crois que cette angoisse-là nous amène sur un autre point, qui est qui est ce que j'ai appelé un peu le nihilisme. C'est-à-dire que, dans le fond, on est sûr d'être sauvé que quand on est mort. Et tant qu'on n'est pas mort, on n'est pas sûr. Hein. C'est d'ailleurs dans le calvinisme, vous avez toute une conception, oui, il faut comment gérer l'entre-deux. L'entre-deux, entre le moment où je suis un born again, hein, où je j'établis un contact personnel avec Dieu, où je me réengage, je me rebaptise, la mort du vieil homme, hein, dans la tradition calviniste, et puis le moment de la résurrection où je serai sûr de faire partie du camp des saints. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait, hein? Bon, Max Weber en a conclu l'invention du capitalisme. Non, j'exagère. Mais c'est un point très important. C'est-à-dire que comment il y a eu cette domestication de l'angoisse dans le calvinisme par d'autres choses, par des pratiques sociales, entre autres. Hein. Alors évidemment, ça fait un petit peu opportuniste là de tomber sur les problèmes actuels, comme on dit. Dans cet état, disons, de décomposition de la religion culturée, qu'est-ce qu'on fait, hein? Et là, je dirais, il y a deux réponses possibles. Une, c'est du côté de ceux qui n'ont pas la foi, justement, mais qui vivent les conséquences de la déculturation du religieux. Et là, on voit le religieux revenir sous l'étiquette de identité, hein, identité chrétienne, par exemple, hein, ou bien sous l'étiquette de culture musulmane, culture chrétienne, etc. Ça pose un problème, parce qu'ici, dans le fond, l'identité ici, c'est la religion sans la foi. Ou du moins où la foi n'est pas nécessaire. À une période où, justement, la religion se reconstruit sur la nécessité de la foi. Et là, c'est pour ça que je pense qu'on n'est pas si éloigné que ça des problématiques de Ricoeur et de Michel Certeau. Comment penser la religion sans la foi au moment même où la religion ne se reconstitue autour de la foi? Et l'identité est une solution qui a un succès énorme. On ne parle que ça aujourd'hui, de l'identité, identité chrétienne de l'Europe. On entend même identité judéo-chrétienne. Alors là, j'avoue que je ne comprends pas, parce qu'il faudra qu'on m'explique comment l'Europe a été, à un moment donné, judaïque. La culture juive a été systématiquement exclue de la culture européenne par l'Église catholique, hein, qui a tout fait pour justement que les Juifs ne pénètrent pas dans l'espace public. L'invention du ghetto, l'accusation de judaïser, pour traquer toutes les traces de culture juive chez les gens, les convertis, etc. Là, quand même, on a quand même un travail de déculturation remarquable. Alors, si on veut dire par là, judéo-chrétienne, que le christianisme vient du judaïsme, d'accord, hein, mais c'est pas exactement le judaïsme tel que le définiraient les Juifs. Autre petite remarque, quand le judaïsme au XIXe siècle est sorti sur la place publique comme culture, c'est une culture séculière, c'est la culture portée par le Yiddish, pour l'Europe orientale. La grande culture juive qui se définissait comme juive, je ne parle pas de juifs romanciers ou de juifs philosophes, je parle de ceux qui se définissaient comme des auteurs juifs. Bon, ce sont essentiellement donc les grands auteurs qui écrivaient en Yiddish. C'était des séculiers, évidemment. Hein. C'est une culture profane qui est rejetée aujourd'hui par les seuls qui parlent encore le Yiddish, à savoir les Haredi. Hein. Donc on est ici un paradoxe total sur... on voit qu'on fait la politique quand on dit Europe judéo-chrétienne. On voit qu'il s'avise. Hein. Mais en termes de généalogie, ça n'a, à mon avis, absolument aucun sens. Hein. Enfin, c'est une reconstruction du passé. Les reconstructions du passé font toujours sens. Mais la manière dont on va re-christianiser l'Europe par l'identité, eh ben c'est un nom très simple qui a été utilisé tout à l'heure, le folklore, hein, la crèche. Bon voilà, on met des crèches dans les mairies, on est chrétien. Hein. Ménard est un très bon exemple. Enfin, il est parfaitement cohérent hein, dans l'identité chrétienne. Bon, le problème, c'est que ça ne touche en rien cette identité chrétienne, les valeurs et les normes de la société. Ce qu'a très bien compris Marine Le Pen, hein, qui est passée de l'identité chrétienne à la défense de la laïcité. Pour mémoire, je vous rappelle ce texte de l'abbé de Lyon, là, il y a 15 jours. J'ai oublié son nom.
Benoît.
L'abbé Benoît, où il dit « Les gens qui étaient au spectacle Bataclan, dans le fond, partagent la même culture diabolique que ceux qui les ont tués. » il était sanctionné par son évêque. C'est le bon côté de qui est une hiérarchie dans l'Église catholique, c'est que vous avez quelqu'un pour sanctionner, non? Ce que ni les protestants ni les musulmans n'ont, hein? Et de temps en temps, ça fait du bien. Donc, il a été renvoyé au couvent, hein? mis au coin, quoi. Ce qu'il exprime, il suffit ensuite de voir la polémique que ça a déclenché dans les blogs et les sites web catholiques conservateurs. Il a dit, il s'est expliqué. Hein, il s'est expliqué. Il dit quelque chose qui est très largement partagé. C'est-à-dire qu'effectivement, la culture des jeunes aujourd'hui est une culture diabolique. Pour finir, cette déconnexion entre foi et culture, cette individualisation du croire, comme disait Daniel Hervieux-Léger, et cette angoisse du salut qui est au cœur évidemment de cette question de foi peut déboucher sur effectivement de la violence. La violence parce que et là je parle des cas des jeunes qui se passent au terrorisme. Ma première thèse, c'est que on a une culture de la violence nihiliste chez beaucoup de jeunes aujourd'hui, et pas forcément des terroristes islamiques. Le phénomène Columbine, hein, le jeune qui rentre dans son école et qui tue ses camarades et ses professeurs tout en se filmant avec une GoPro et en ayant annoncé à l'avance sur Internet ce qu'il allait faire, ça fait exactement partie de la culture du gars qui va au Bataclan et qui tire sur tout le monde en se filmant avec la GoPro également et après l'avoir annoncé sur Internet. concernés. On est dans un même rapport à la violence. Ce qui explique d'ailleurs la difficulté, je pense à ce qui vient de se passer à San Bernardino aux États-Unis. Les gens se disent, mais est-ce que c'est du terrorisme islamique ou est-ce que c'est un coup de folie individuel? Ça fait plus tellement de sens maintenant, parce que justement, je dis, on est dans une structure de violence qui est commune dans des milieux extrêmement différents, mais qui, à certains moments, certains de ces auteurs de violence vont se réclamer d'un grand récit. Celui qui a attaqué une clinique du planning familial aux États-Unis se réclamait du grand récit du droit à la vie, pro-life. Bon. Les jeunes qui passent au djihadisme se réclament du grand récit du djihadisme. Donc vous avez ceux qui ne se réclament de rien et qui tuent, bon, froidement d'ailleurs, c'est tout le monde le souligne, justement ils tuent sans colère. Et vous avez une description par des survivants du tueur du Bataclan, du gars qui a tiré dans un cinéma à Memphis et de Breivik, le Norvégien, et le ce qui est très curieux, enfin intéressant d'un point de vue analytique, c'est que le tueur se comporte toujours de la même manière, très très calme, très professionnel, comme s'il était à l'exercice. Et puis après, vous avez le récit dans lequel il s'inscrit, ou l'absence de récit. Alors quand il n'y a pas de récit, on dit il est fou. Et quand il y a un récit, on dit le problème c'est l'islam. C'est très simple. D'où le fait que certains types un peu dérangés vont attaquer en criant à l'Akbar, parce que là ils sont sûrs de faire le titre, la une des news, alors que s'ils disent rien, ils resteront dans le journal local. Donc on a un phénomène structurel, mais il y a un narratif, un récit qui marche aujourd'hui, c'est celui du djihad. Ça c'est clair et net, pour des tas de raisons, des raisons propres au Moyen-Orient, ça c'est sûr, qui est dans les conflits du Moyen-Orient, la structuration des conflits du Moyen-Orient, et puis pour une autre raison, qui est pour moi la rapidité avec l'islam est contraint, je dis bien contraint, de s'adapter à la sécularisation, non seulement dans l'immigration, mais dans les pays musulmans eux-mêmes, alors que le christianisme ou le judaïsme ont eu, disons, bénéficié de quelques générations de plus pour faire ça. Donc on a une espèce de court-circuitage qui explique ce que je racontais dans mon article du Monde. Pourquoi, dans le fond, le terrorisme, loin d'être un phénomène de masse propre, disons, aux masses musulmanes, est un phénomène qui touche des catégories très précises. Alors, quand je dis ça, c'est jamais 100%, bien sûr, mais c'est 90% quand même. Les catégories très précises de radicaux en Europe, ce sont les secondes générations. Je le prends pas au sens de l'âge, je le prends au sens généalogique. C'est-à-dire ceux dont les parents sont les immigrés. Alors, on peut avoir des secondes générations qui ont maintenant 60 ans, et des secondes générations qui ont 20 ans. Donc c'est la catégorie principale de ceux qui commettent des attentats, alors qu'on a maintenant toute une génération de troisième génération. Il y a plein de jeunes de 20 ans dont c'est le grand-père qui s'est installé en Europe. Chez ceux-là, on a beaucoup, beaucoup moins. Et à ma connaissance, on n'a pas. Bon, mais sous réserve d'inventaire, on n'a pas de radicaux. Et puis la deuxième catégorie, c'est les convertis. Alors maintenant, ça y est, les gens savent qu'il y a une proportion très significative de convertis chez les djihadistes, qui est pour les Français de 25%. Et pour les sympathisants, alors d'après la police, 37%. La différence, c'est que 25%, c'est ceux qui sont passés à l'acte ou qui ont été capturés dans un réseau de terroristes. Et 37%, c'est ceux parmi ceux qui ont exprimé sur Internet leur volonté de faire le djihad. Mais on ne sait pas forcément s'ils y auraient été. C'est tout le problème de ce qu'on appelle l'action préventive, c'est-à-dire, bon, quelqu'un dit quelque chose, peut-on l'incriminer pour ça? Bon, ça c'est une autre affaire. Cette proportion convertis, de même que ce phénomène des secondes générations, est constant depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que je dis, mais il y a 25% de convertis. Et ça fait seulement 3 ans que les experts disent, tiens, mais il y a 25% de convertis. Ils sont là depuis le début. Dans le réseau Belgal en 1997, il y avait 25% de convertis. 95-96, c'est le tournant. C'est quand on passe de la première à la seconde génération de terroristes. Il n'y a pas de troisième génération. C'est-à-dire, on passe de ceux qui venaient d'Algérie, par exemple le GIA, les gens du GIA ou du Liban dans la, avant, et qui commettaient des attentats sur le sol français et européen. Et 95-96, là on passe au recrutement de jeunes qui sont nés, qui sont arrivés très jeunes en France. Hein. Bon, et les caractéristiques n'ont pas changé depuis. C'est le petit réseau de copains, avec ce phénomène qui est quand même là aussi d'un point de vue sociologique intéressant. Les fratries sont surreprésentées. Comment ça se fait que parmi ces quelques centaines de terroristes, on ait un nombre incroyable de frères, hein? Bon, c'est totalement bon. Et alors, je voudrais qu'on m'explique le rapport avec le Coran, ça c'est une autre affaire. Y compris chez les convertis, les frères Klein, hein? On se convertit en fratrie et on refabrique une fratrie. C'est-à-dire que dans le petit groupe, on épouse la sœur de son copain. Et ce phénomène générationnel et sociologiquement, là, je ne fais pas de la métaphysique, de la grande philosophie, etc. Ça, on le constate sociologiquement. C'est un phénomène générationnel. Et comment l'interpréter ? Je terminerai là-dessus parce que j'arrive à enfin au temps de parole. Par la déculturation du religieux. C'est-à-dire que entre la première et la seconde génération, c'est là que la déculturation s'est faite dans le plus bref espace de temps et donc à la plus grande violence. Les parents n'ont pas transmis aux enfants. Je fais juste une petite parenthèse. Un des principaux reproches, raisons de la radicalisation de la bande à Bader, c'était exactement ça. Les gens de Bader, ils disaient à leurs parents « Vous nous avez rien dit. Vous étiez coupables. Vous n'avez rien dit sous le nazisme et vous nous dites rien. Hein. » Et les jeunes de seconde génération reprochent aussi à leurs parents leur silence, en partie leur silence sur la raison de l'immigration. Il est intéressant de voir qu'aucun de ces jeunes ne reprend en compte l'itinéraire réel de leurs parents, par exemple la guerre d'Algérie, mais qui vont tous s'identifier à une cause globale, le djihad international, non relié, contrairement à ce que pense mon éminent collègue et camarade Burga, c'est pas la revanche des colonisés. Parce que justement, ils désertent totalement, et sur le plan de la mémoire, et sur le plan de l'action, les territoires de la colonisation. Et au contraire, ils rejoignent le djihad global, et ce qu'ils appellent la Oumma globale, comme d'ailleurs Bader et tous les l'ultra-gauche des années 60 et 70, se battaient pour la révolution avec un grand R, et pour le prolétariat mondial, tout en ignorant soigneusement le prolétariat local, hein, c'est-à-dire l'usine du coin. Hein. Il y avait que la gauche prolétarienne pour aller à l'usine. Hein, autrement, dans toute l'extrême-gauche, l'usine, bon, on s'en occupe pas. Le prolétaire réel n'existe pas, seul compte le prolétaire imaginaire. Pour ces jeunes radicaux, le musulman réel n'existe pas, seul compte le musulman imaginaire. Et en même temps, ils ne sont pas dans l'utopie au sens où ce qui est intéressant, comme les gens de la bande à Bader Meinhof, ils ne croient pas dans la société islamique. Ils vont en Syrie pour se faire tuer. Aucun ne fait souche là-bas. On a des tas de récits. C'est pour ça que soit ils importent des femmes, volontaires, regardés sur le djihad, soit ils prennent des esclaves sexuels. Mais ils sont comme une sorte, j'allais dire, de bande de mamelouks, hein, uniquement en charge du combat et destinés à mourir. Et on voit d'ailleurs des dialogues complètement bon, étonnants, hein, des jeunes françaises qui vont là-bas pour épouser un futur martyr. Hein. Et qui disent, voilà, je serai... Et qui discutent entre elles sur l'intérêt... Bon, qu'est-ce qui arrive? Alors, une fois que je serai veuve de martyr, ça sera quoi mon statut? Oh, ben, tu verras, c'est très bien. Tu auras une pension et tout. Mais il faudrait que t'en épouses un autre après, bien sûr. Hein, bon. Donc, même pour celles, si vous voulez, qui veulent épouser leur héros djihadiste, elles savent qu'il va mourir, que c'est son destin. Et bon, ben, ça fait partie du deal, si je peux dire. Hein. Donc, cette utopie est apocalyptique parce que ils ne croient pas que la société islamique existera sur Terre. Ils s'en fichent. Elle est totalement absente. Hein. Et c'est pour ça que, à mon avis, Daesh ne tiendra pas. Parce qu'ils n'ont pas un vrai projet d'implantation sociale. Ce qu'avaient les frères musulmans ou l'Iran, qui étaient des partis politiques, ce qu'on appelle islamo-nationalistes, c'est-à-dire ancrés dans une société. Il n'y a aucun rapport entre un frère musulman et un djihadiste, ni intellectuellement, ni sociologiquement, ni socialement, ni politiquement, ni idéologiquement, ni religieusement. Donc là, on a vraiment un phénomène d'exacerbation disons, de certaines tendances qui sont dans les mutations du religieux aujourd'hui et qui sont exacerbées dans l'islam pour des tas de raisons, dont des raisons historiques, dont des raisons géostratégiques actuelles, des raisons sociologiques, tout ce qu'on veut, non, mais qui fait que c'est effectivement le grand récit du djihadisme salafi qui est aujourd'hui ce qui domine la scène de la radicalisation. Merci.
Merci pour cette communication très intéressante. Je me donne de parler simplement à la fin et de réagir à ce moment-là. S'il y a des questions dans la salle, c'est le moment. Vous avez le droit de poser des questions aussi bien donc, à Olivier Roy qui vient de parler qu'à Jean-Louis Schlegel juste avant.
Il y a un micro qui arrive.
Merci. Pardon. Je voulais signaler que Paul Ricoeur assistait au congrès de théologiens de Los Angeles sur lequel Michel de Certeau a écrit l'article que Jean-Louis Schlegel a cité, les lieux de transit. Cet article a été publié à Esprit. J'étais à ce moment-là membre du comité de rédaction. C'était moi qui m'en étais occupée sous la houlette de Paul Thibault, qui était à ce moment-là rédacteur. Et après la parution du texte, Paul Ricoeur avait exprimé courtoisement, mais clairement, sa désapprobation de ce texte, disant que le congrès de théologiens auquel il avait assisté à Los Angeles en même temps que Michel de Certeau était très différent du récit qu'en avait présenté Michel de Certeau.
Eh bien voilà le rôle du récit illustré en direct. Oui, il y a une question là-bas. Merci Luce. J'ignorais ce petit point, oui, intéressant.
Oui, bonjour. Comme mon âge ne le laisse pas présumer, je suis étudiant en master d'études des faits religieux à l'Université d'Artois. Ma question est pour Olivier Roy, c'est sur la fin de votre intervention. Je vous trouve finalement assez optimiste en disant que Daesh n'a pas de projet d'implantation sociale. Donc si je poursuis, on pourrait imaginer que on est sur une aventure qui se terminera. Toutefois, il y a une vraie question qui tourne autour justement des générations. Alors vous avez parlé première génération, deuxième génération, en disant que la deuxième génération et qu'il n'y aurait pas de troisième génération, pardon. Or, les djihadistes ont des épouses. Ces épouses font des enfants. Ces enfants restent sur Daesh. Et donc, autour de ces enfants, on peut imaginer qu'il y ait une réalité sociale qui s'organise. Et donc, finalement, un dispositif de continuité. Donc, je voulais connaître quel était votre point de vue là-dessus. Merci.
S'il y a une continuité, ce serait une continuité de la secte, pas une continuité de la société. Parce que tous ces gens-là, les familles de djihadistes, où l'espérance de vie d'ailleurs est très brève, vivent entre elles, sans apprendre la langue locale, complètement détachées de tout. Et on voit chez beaucoup d'entre eux, à un moment donné, un désenchantement. En particulier chez les femmes avec enfants, qui à un moment donné, s'aperçoivent qu'il n'y a pas vraiment d'avenir pour leur enfant. Alors il y a les fanatiques, qui veulent impliquer leurs enfants au maximum, donc en leur faisant porter des armes, en les faisant tuer, etc. Je me demande quel va être le résultat. Mais c'est pas une société, si vous voulez. Donc qu'il y ait des individus qui sortent de la secte à nouveau pour commettre des attentats, des attaques, oui, ça sera sûr. Mais en tant que phénomène, disons sociologique, non. Je ne pense pas.
est-ce qu'il y a une source pour les religions ou qu'est-ce qui se donne le résultat? Qu'est-ce qui est le pardon. Je ne vous mets pas votre intelligence en cause, mais vous tournez autour. Quelqu'un qui n'a pas, on peut toujours dire je suis chrétien, j'ai la croix, je vais à la messe, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Le vrai chrétien prie d'abord. J'ai entendu parler. Ça marche.
Non, ça marche. Oui.
Un certain.
C'est mes oreilles, alors il faut parler lentement.
Oui, d'accord, pardon. Un certain prêtre, il disait déjà en 70, notre société est une société sans prière. Sans prière, vous ne savez même pas contacter Dieu, parce que c'est Dieu qui donne la grâce et Dieu qui vous donne tout. Parce que ça donne des. Qu'est-ce que vous dites quand je vous dis une différence? Qu'est-ce qu'il y a une différence entre un païen et quelqu'un qui croit? Qu'est-ce qu'il y a une différence? La différence doit se voir dans ses actions, dans ses comportements, dans ses vis-à-vis de son prochain. Et là, on touche le cœur. Mais pas le cœur, comme on dit, le cœur autour du cou. Le cœur vraiment qui voit et qui sent. Et là, évidemment, on touche le Christ. Parce que le Christ qui nous communique tout cela. Pardon?
Donc.
Alors écoutez, alors, je suis très bref. Laissez-moi finir, pardonnez-moi. Bref, qu'est-ce que vous pouvez me répondre là? Pardonnez-moi de dire ça comme ça, très brièvement. Merci.
Non, mais si vous voulez, il y a une grosse ambiguïté en général en français, peut-être même ailleurs, sur ce mot païen. Parce que souvent quand les gens religieux parlent des païens, c'est pour désigner ceux qui ne croient en rien, mettons, qui ne croient pas en Dieu. Mais bien entendu, pour quand on est un tout petit peu connaisseur du religieux, au contraire, le paganisme, c'est la religion par excellence, c'est la religion pleine. Oui, tout à fait. Oui, non, mais bon. Vous avez le droit de penser cela, si vous voulez. Il n'y a pas de problème pour moi, mais tout le monde ne l'entend pas comme ça. Hein, c'est bien évident. Voilà, mais vous avez le droit de penser que, mettons, une religion implique toujours la foi en Dieu, mais.
Oui. Partager, solidarité, tout ça. C'est ça qui développe la vraie foi. Si c'est pas là, ce n'est pas la foi.
Mais oui, mais encore une fois, madame. Mais non, mais encore une fois. Vous...
Le problème de la distinction.
Non, mais vous pensez cela, et moi je le respecte tout à fait. Mais simplement, tout le monde ne pense pas comme vous. C'est tout. Hein. Il y a une multitude de religions où, par exemple, il n'y a pas de commandement d'amour, comme dans le christianisme. Il y a une multitude de religions, finalement, où on se demande s'il y a vraiment une foi en un dieu. Il y a des religions avec plusieurs dieux, donc il y a des formes très différentes. Voilà.
Voilà. Y a-t-il d'autres questions? D'accord.
C'est une question pour qui veut l'apprendre. Vous avez parlé des religions qui, me semble-t-il, irriguaient.
Non, toujours pas.
Ça marche?
Oui.
Ça marche. Donc, les identités dont vous avez parlé...
Ça ne marche plus.
puisque les identités voilà, régressent.
Non, moi j'aurais dit, si je prenais le dernier Certeau, j'aurais dit que l'anthropologie du croire fait penser que le croire est un phénomène universellement partagé, hein, mais qu'effectivement, ce qu'on met comme complément d'objet ou comme complément d'objet indirect derrière le mot peut différer, mais que la catégorie humaine du croire est quelque chose d'universel, c'est-à-dire qu'au fond, nous croyons tous en des tas de choses. Je me souviens d'ailleurs d'un article très intéressant, il y a déjà 20 ans peut-être, d'une philosophe que je n'ai plus lue ensuite, Anne-Marie Roviello, qui, je crois bien, était liée à Ricoeur, qui soutenait quelque chose de ce genre-là contre la philosophie rationaliste, qui, d'une certaine manière, confère la célèbre préface de Kant à la critique de la raison pure, oppose très nettement le savoir et la foi. Et c'est une tradition forte en France, enfin en Occident et en France, hein, d'opposer les deux. Je crois que ce que Certeau suggérait par là, et je suis tenté d'aller dans son sens, c'est que le croire est quelque chose d'universel ou de très fortement, oui, enfin c'est une attitude humaine fondamentale, mais ensuite on va se diviser sur ce qui est cru. Hein, c'est comme ça que je le vois. Donc, à ce moment-là, à votre question, je ne sais pas exactement quoi répondre. Hein, je ne crois pas trop aux sondages ou aux enquêtes sociologiques là-dessus. Il faudrait voir par quel biais les faire pour savoir ce que croient les jeunes d'aujourd'hui. Je suis perplexe. Hein. Mais c'est vrai que dans les enquêtes de sociologie religieuse, on va dire, les dernières qu'on a faites, par exemple, actuellement, il y a encore 50%, je crois que c'était à peu près la quantité il y a 2-3 ans ou il y a 2 ans, 50% de Français n'ont plus de religion. Alors si on va plus loin, mettons, ne croient plus en Dieu. Mais quand on dit n'ont plus de religion et ne croient pas en Dieu, on dit quelque chose de totalement différent déjà. L'une des difficultés de la sociologie religieuse en général et du religieux en général, c'est quand même effectivement de quoi parle-t-on exactement ? Hein, c'est toujours la grande difficulté des enquêtes. Et par exemple aussi, vous voyez les célèbres enquêtes sur la pratique religieuse. Mettons, quand on dit ce qui est la réalité, aujourd'hui 4% des catholiques, alors que la messe du dimanche, donc la pratique dominicale est obligatoire, il n'y a plus que 4% qui pratiquent tous les dimanches. La grande question, c'est après d'interpréter ce chiffre, parce que les 4% peuvent avoir des tas de pratiques à côté, précisément pour la raison qu'on a dite, c'est-à-dire que l'obligation de l'Église catholique est interprétée tout à fait différemment aujourd'hui par un tas de gens. Hein, c'est-à-dire, une foule de gens disent, tiens, j'ai été à un enterrement cette semaine, ça va compter pour la messe. Hein, enfin, non mais c'est vrai. C'est-à-dire, en tout cas, vous voyez, peu importe finalement, mon exemple est un peu grossier, mais l'idée d'obéissance déjà à la discipline de l'Église catholique dans ce domaine, l'idée d'obéir est quelque chose qui échappe à une foule de gens. On dirait, pas, tout simplement parce que ils ne voient pas à quoi ça correspond exactement pour eux. Hein, donc autrement dit, l'interprétation des chiffres, des pratiques, des croyances est difficile, je trouve. Très difficile. Alors, on entend, on lit ça, mais ça c'est souvent des hommes d'église qui disent, oui, les jeunes espèrent, sont extrêmement, croyants sans le savoir, vivent des espérances de sens très fortes, je n'en sais rien. Hein, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, ça c'est encore un autre problème. Beaucoup de journaux ont sorti les biographies des morts du Bataclan. Hein, Le Monde fait toute une série en ce moment. Mais ce qui est étonnant par rapport à la déclaration de ce prêtre de Lyon qui dit « ce sont quasiment des satanistes », là on se dit « ce prêtre est totalement à côté de la plaque ». Parce que tous ces jeunes ont vécu d'espérances diverses. Moi-même j'ai vu sur Internet un journaliste de France Bleu dont la femme a été tuée au Bataclan, je crois bien, ou dans un des restaurants, qui avait manifestement, c'était un homme d'une, c'était un monsieur d'une foi extraordinaire. Enfin, c'était, je sais pas, la façon dont il parlait de lui-même, de son CV. D'ailleurs, il faisait partie de Vie chrétienne, du mouvement jésuite, de laïque, qui choisissent la spiritualité ignatienne. Mais voilà, quoi. Donc, on est dans un. À la limite, le fait que nous soyons dans un grand flou fait partie de la situation.
Oui, au niveau de la bande à Bader, il y a eu un film d'archives assez remarquable qui s'appelle Une jeunesse allemande, qui parlait un peu de cette bande, et en particulier de Ulrike Manhoff. Ulrike Manhoff était une femme assez remarquable, très humaniste, bon, elle a fini dans la violence. Mais il luttait pas seulement parce qu'on ne l'avait pas dit, mais il luttait contre aussi une structure encore judiciaire infectée de nazis, une structure policière infectée de nazis. Donc c'est un peu rapide de dire qu'il luttait contre, uniquement contre ce qu'on ne l'avait pas dit. Il luttait contre un État qui était quand même assez marqué. Et il y a eu un autre film d'ailleurs. Alors oui, par rapport à ce film, il est dit dans ce film que Habermas n'a pas compris l'évolution de la bande à Bader, parce qu'Heinrich Böll a compris, lui. Ce qui était... Et il y a eu un autre film plus commercial qui racontait l'histoire d'un juge qui voulait débusquer un nazi qui était barré par sa hiérarchie. Donc ce que vous dites m'a l'air un peu à préciser quand même.
C'est pas du tout contradictoire. Ce que la bande à Bader reprochait à sa génération, c'est d'avoir été nazi et de l'avoir caché. Donc que l'institution cache d'anciens nazis est parfaitement compatible avec cette idée-là. Et justement, une de leurs tâches était de débusquer les nazis cachés dans l'institution. Ce qu'ils reprochent à la génération de leurs parents, donc à ceux qui étaient effectivement les juges, les hommes d'État, etc., c'est de protéger des nazis sans rien dire, hein, tout en faisant comme si 45 avait une coupure totale, et comme s'il y avait une nouvelle société allemande qui n'avait plus rien à voir avec l'ancienne, alors qu'en fait, l'ancienne était cachée au cœur de la nouvelle. Donc c'est bien le silence de la génération des parents qu'ils dénonçaient.
Une autre question, il y en a aussi une.
Oui, il y a une au fond là-bas.
Le bas, il y a au fond. Et au premier rang aussi.
Oui, ma question pour Olivier Roy, bonjour. Vous décrivez le phénomène Daesh comme une secte et vous dites que il n'a pas d'avenir sociologique. C'est relativement rassurant et on peut, souscrire évidemment à la représentation que vous en donnez. Il me semble qu'il y a une question sur laquelle j'aimerais vous entendre, c'est comment vous articulez ça avec le politique, parce que le sociologique est une chose, il n'y a peut-être pas d'espoir du point de vue de la sociologie. Cela dit, il me semble qu'à la différence de l'époque de la bande à Bader, on a eu aussi une mutation du politique, et que c'est ça qui pose aussi question, parce que au fond, au moment de la bande à Bader, le politique est régulé d'une part par des modes de fonctionnement des process démocratiques à l'Ouest, et puis un pouvoir qui tient le reste à l'Est, hein, pour faire très court. Aujourd'hui, le politique au niveau international, me semble-t-il, a carrément muté, puisqu'on a maintenant des acteurs qui marquent leur détermination par la conscience que c'est la force qui détermine les modes de négociation, et que la force est devenue première, et que dans ce jeu-là, ce qui se passe autour de Daesh, c'est aussi un jeu politique. On le voit d'ailleurs en ce moment, puisque c'est ce matin, je crois, la nouvelle bataille en cours du côté de la zone des Turkmènes, etc., montre que tous les acteurs sont là maintenant, avec des répartitions des rôles qui sont assez étranges finalement, qui sont beaucoup plus complexes que celles qui sont affichées. Et moi, ça me rappelle, au fond, une chose que vous avez vue comme moi, c'est ce qui s'est passé en Yougoslavie, où on avait la détermination par la violence, c'était une chose essentielle de la part d'au moins des acteurs qui s'appelaient Milosevic, et on avait une culture d'un conflit qui n'était pas un conflit à deux, mais qui était un conflit à plusieurs, au moins trois, où les alliances, les trahisons changeaient en fonction des utilités, des nécessités. Et la seule chose qui comptait au fond, c'était le rapport de force. Et je pense que j'aimerais bien vous entendre là-dessus, sur l'articulation entre ce phénomène qui n'a peut-être pas de, comment dire, d'avenir à long terme en termes de sociologie, mais qui se greffe sur un rapport politique qui a complètement changé.
Vous avez tout à fait raison, hein. Mais simplement, aujourd'hui, le titre de l'après-midi, c'est les ruptures du croire. C'est pas la géostratégie du Moyen-Orient. Mais je peux vous parler de la géostratégie du Moyen-Orient, ça, il y a aucun problème. Effectivement, Daesh n'est pas une secte qui se promène comme ça. Daesh est très articulé sur un jeu géostratégique local, et c'est ça qui fait sa force, et aussi peut-être sa faiblesse. La révolte, le fait que les populations arabes sunnites de deux côtés de la frontière irako-syrienne et finalement, je dirais, se soit reconnue dans Daesh, s'explique parce que ces populations se sentaient minorisées, menacées par tous les autres, les chiites, les kurdes, le régime de Damas, les Américains, ou exactement, ils se sentaient abandonnés par les Américains depuis les fausses promesses du fameux surge du général Petraeus en 2006. Et ces gens qui étaient spontanément, disons, bassistes, pro-Saddam Hussein, se sont reconstitués dans une organisation de type islamiste. Bon. Là, il n'y a rien d'illogique. Ils auraient pu créer une organisation de type Hamas, hein. C'est-à-dire ce qu'on appelle islamo-nationaliste. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Daesh, d'emblée, s'est présenté comme un acteur global et apocalyptique. Et que Daesh, justement, contrairement à Hamas, Daesh ne réclame pas la création d'un État sunnite entre l'Irak et la Syrie. Daesh se réclame du califat mondial. Ça, c'est la première, disons, dissonance, hein. D'introduire d'emblée un élément de globalisation utopique, millénariste, disons, dans le jeu géostratégique local. Et la deuxième, qui est aussi extraordinaire, c'est la création de ces mamelouks, c'est-à-dire de ce corps expéditionnaire de jeunes volontaires qui est son fer de lance. Hein. Puisque, bon, on le sait, une des raisons du succès militaire de Daesh, c'est précisément la manière dont ils attaquent avec des voitures suicides, des camions suicides, et qui créent un effet de terreur chez leurs adversaires. Donc on a, les deux aspects. Hein. C'est, ils ont tourné en structure de... Enfin non, ils ont d'emblée joué cette structure de secte, mais en même temps, ils sont enracinés dans le jeu géopolitique local. Ce que je dis, c'est qu'il y a une contradiction de long terme entre les deux. Hein. La population locale n'a pas forcément envie de mener un djihad global pour la restauration du califat du premier siècle de l'islam. La population locale, elle veut se libérer de ce qu'ils perçoivent comme une oppression des chiites, des alaouites et la menace des kurdes. Enfin, la menace, ils se battent pour les mêmes territoires. Faut pas, bon, Mossoul, c'est une ville qui est un enjeu depuis longtemps entre arabes et kurdes. Et donc ils ont, la population locale a des objectifs, et Daesh risque de finalement de mettre en péril ses objectifs en poursuivant son grand rêve millénariste, hein. Donc je pense, moi, mais c'est là on est dans la spéculation, hein, soit Daesh se replie sur le modèle de type Hamas ou Taliban, c'est-à-dire accepte la vraie territorialisation et donc la négociation, hein. C'est-à-dire ensuite négocie des frontières. À partir du moment où Daesh se réclamerait de frontières, là, ils rentrent dans le jeu, je dirais, westphalien. Hein. On peut effectivement négocier des frontières, c'est ce que font les talibans. Hein, les talibans, on leur a fait la guerre, etc. Mais les talibans ne contestent pas la frontière afghano-pakistanaise. Les talibans ne font pas de terrorisme international. Hein. Et on n'ira pas envers l'Afghanistan pour libérer les femmes afghanes du Tchadeur. Hein, ça, c'est de la propagande. Donc, on peut négocier avec les talibans. Hamas, c'est pareil. Hein. Hamas est dans un positionnement de négociation, évidemment, avec des demandes qui ne sont pas forcément acceptables par l'autre camp, mais il est dans une logique de territorialisation et de nationalité. Daesh, pour le moment, non. Et je pense qu'à un moment donné, il y aura un éclatement de Daesh entre ceux qui vont poursuivre le rêve millénariste et ceux qui vont se dire « bon, ben, on va construire l'islamisme dans un seul pays
». Une dernière question, peut-être encore.
Bon, alors, une dernière. Ah, encore une.
rien et je parle au micro. Oui, bonjour. Je voudrais revenir un petit peu à Ricoeur et à la première conférence de Fessel qui n'est plus là, mais c'est pas grave, vous pouvez répondre. Je voudrais savoir qu'est-ce que justement Paul Ricoeur, qui était l'ami de Mounier, d'Emmanuel Mounier, le philosophe de l'événement, qu'est-ce que Ricoeur dirait aujourd'hui de l'événement, des événements? Est-ce qu'il écrirait dans Esprit? Est-ce qu'il écrirait un livre? Enfin, est-ce qu'il nous ramènerait à Job?
Enfin, il y a Olivier est là, mais moi, je ne vois malheureusement pas quoi répondre. Non, c'est vrai, je ne sais pas. Mais j'ai bien une intuition sur sa modération et sa réflexivité dans le moment que nous vivons. Mais je ne vais pas en dire beaucoup plus, quoi. Enfin, voilà. Mais puis aussi, il était quand même. Je suis pas sûr qu'il s'exprimerait sur tout ce qui se passe. Il était modeste quand même. Par exemple, je ne le vois pas faire des analyses sociopolitiques. C'était pas son genre, hein. C'était pas son problème, je crois même. Mais qu'il dise quelque chose en amont pour nous faire comprendre éventuellement d'autres choses, oui. Mais pas sur la situation. Je ne crois pas. Mais oui. Oui, encore une question. Oui. Il y a encore une dame là-haut après.
Une question pour Olivier Roy. Vous nous avez bien présenté un double phénomène de déculturation, une confrontation du monde musulman essentiellement, enfin sunnite, lié et confronté à. Qu'il y a une déculturation des enfants de la seconde génération, et là on a un phénomène qui est un phénomène d'un pays occidental avec une prépondérance relative, enfin une part relativement forte des convertis. Est-ce qu'il y a une explication de la jonction entre ces deux phénomènes? En clair, pourquoi cette déculturation des gens de la deuxième génération se fait en adhérant à un mythe ou une utopie qui se veut islamique ou islamiste, plutôt qu'une utopie areligieuse ou antireligieuse, comme ça pourrait être le cas dans les années 60, ou bien une autre utopie religieuse du type d'un fondamentalisme chrétien, par exemple. Est-ce qu'on est capable d'expliquer cette bascule-là?
Alors d'abord, il faut quand même revenir aux statistiques. Les djihadistes représentent quelques centaines, voire quelques milliers d'individus pour un groupe qui représente des centaines de milliers, voire un ou deux millions d'individus. Hein. Donc on peut pas dire que la déculturation de la seconde génération entraîne la djihadisation de la seconde génération. Hein. Donc c'est comme les convertis. Les convertis sont le symbole d'un malaise, d'une crise. Bon, mais il reste dans des chiffres encore minoritaires. Encore qu'on oublie tous les convertis au salafisme, hein, parce que tout le monde n'est pas djihadiste. Le salafisme est la religiosité naturelle du déculturé. Parce que le salafisme vous transforme une religion en un système de normes explicites et maîtrisables par un individu. Il n'y a plus de théologie, d'ailleurs, pour en venir au débat, la discussion. La théologie étant une discursivité, bon, une réflexion, etc., ça ne les intéresse pas. Ils sont dans la norme, ou dans la mystique, ou dans les deux, mais pas dans la théologie. Il est évident que le djihadisme est la forme la plus spectaculaire de cette déculturation, mais que c'est loin d'être les formes dominantes. Qu'est-ce qu'il y a comme autre forme dominante? Vous avez tout. Vous avez aussi l'athéisme. Il y a plein de jeunes qui quittent l'islam. Bon, ils n'écrivent pas un livre là-dessus, parce qu'ils n'écrivent pas de livre ou parce qu'ils considèrent que c'est une banalité absolue. Vous avez le musulman nominal, celui qui continue à dire qu'il est musulman mais qui pratique plus ou qui pratique que les rites sociaux, comme le ramadan, hein, mais qui a abandonné la prière, etc. Si le ramadan reste le rite le plus pratiqué dans les gens d'origine musulmane, c'est parce que c'est le seul rite social. Ça correspond effectivement à une sociabilisation. Et là, il y a une demande de sociabilisation, sauf chez les plus radicaux. Et puis vous avez d'autres formes, vous avez la conversion au christianisme. Il y a plus de musulmans, de jeunes musulmans convertis au christianisme en France que de djihadistes, hein. On l'oublie, un, parce que bon, ils se promènent pas avec un grand drapeau, je suis converti, mais ils sont pas cachés, les gens qui disent, ah, en islam, on peut pas se convertir, on est tué. Vous avez une église évangélique maghrébine d'à peu près 10 000 membres en France, hein, avec une église à Trappes, l'église de Trappes, le temple de Trappes est à côté de la mosquée salafiste. Bien sûr, le dimanche sur le marché, quand les deux groupes se croisent en train de distribuer leurs tracts, ils s'engueulent comme s'engueulaient les trotskistes et les communistes 50 ans plus tôt. Mais ça s'arrête là. Il n'y a jamais eu d'incident grave. Alors une fois, j'étais demandé, ouais, mais c'est quand même curieux. Il y a les convertis, là, bon, qui sont là, hein, et alors le temple converti, il n'y a que des maghrébins. Hein. Par contre, dans la mosquée salafiste, vous avez plus d'un tiers de normands, hein, convertis. Et ça se passe bien. Et alors la réponse d'un des gars de là-bas, il m'a dit, ben oui, on était tous à la même école maternelle. Bon, c'est le quartier, quoi. Voilà, le quartier a muté comme ça. Et alors, si à Trappes, les convertis sont surreprésentés, c'est parce qu'il y a un pasteur Saïd Oudjibou qui a son site web. Hein, regardez dessus, Saïd Oudjibou, qui est un pasteur charismatique, prosélyte, c'est un Marocain d'origine. Bon, mais à Saint-Ouen aussi, il y en a. À Saint-Ouen, à la sortie du métro, parfois, vous avez les évangéliques qui font qui distribue de la littérature spécialement destinée aux musulmans, avec en bilingue, et ça commence d'ailleurs par une caravane d'Abraham qui vient de Urfa et qui se dirige vers la Terre Sainte. Donc quand vous êtes musulman, vous dites, ah ben oui, des chameaux, turbans, etc. Bon, et puis Ibrahim, tout va bien, quoi. Deuxième, puis troisième page, voilà, arrive Jésus, la crèche, ils adorent la crèche, hein, aucun problème, pour une fois qu'une femme voilée peut être dans un établissement public, ils ont rien contre, hein. Bon, et le message passe. Hein. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils se convertissent tous, mais alors maintenant, c'est l'évêque de Toulon qui a maintenant mis en place un groupe de conversion des musulmans. Hein. Donc, ils sont quoi? Ils sont franciscains? Ils sont il a un groupe de moines, hein, qui sont spécialisés dans la conversion des musulmans et pas du tout selon la méthode père blanc, c'est-à-dire on passe 10 ans à apprendre l'arabe et le Coran et ensuite on va causer. Eux, c'est la méthode charismatique, c'est-à-dire on va dans la rue, on aborde les jeunes, on est en tenue chrétienne, la grande croix, etc. Et c'est ça qui marche. Donc il y a plein de formes de mutations de religiosité, de choix de vie, etc. C'est une très très grande variété. Mais évidemment, parmi toutes ces mutations du religieux, il y en a un qui se fait avec des bombes et des kalachnikovs. Alors oui, ils occupent un peu le terrain, ça c'est sûr.
Oui, il se trouve que... Alors là, c'est une question aussi pour Olivier Roy. Il se trouve que j'ai passé les 5 dernières années de ma vie professionnelle à la délégation interministérielle à la ville, donc qui s'occupe des quartiers. J'ai passé la dernière année à me balader dans les quartiers pour voir justement l'usage de la ville par les gens des quartiers. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est quand même l'extrême islamisation de l'espace public. On ne parlait évidemment pas de religion dans ces réunions, mais il était absolument impensable qu'une femme fasse autre chose que passer dans l'espace public. Et ça, je peux vous dire que ça suscite de la part du côté de la société française, et en particulier des femmes, une exaspération extrême. Pensez que moi, quand j'étais dans une école libre à l'école primaire, j'étais obligée d'avoir un chapeau et des gants. Et donc, c'est pour beaucoup de femmes, c'est un retour en arrière qui est absolument révoltant. Et je pense qu'il y a énormément de gens dans la société française qui réagissent à ça. Et ce qu'on a pu voir aussi, c'est que cette islamisation, c'est la stratégie des frères musulmans et des salafistes, c'est-à-dire l'islamisation par le bas. Et que là où ça marche le mieux, c'est évidemment dans les quartiers les plus populaires. Je suppose que vous avez lu le livre de Didier Lapéroni, Ghetto Urbain. où il décrit très bien, où on apprend au détour d'une phrase que c'est les frères musulmans qui tiennent la mosquée, qui sont en lien avec les petits caïds de quartier, qui s'arrangent pour interdire l'arrivée des femmes dans le centre social. Enfin, plus question qu'elles aillent travailler sur les ordinateurs, qu'elles n'ont le droit que d'être chez elles et d'être mariées pour faire des enfants. Voilà. Alors, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Et moi, il me semble que ça... Est-ce que vous savez si ça touche seulement les premières générations, parce que moi, les deuxièmes générations, parce que moi, il me semble que ça touche aussi les troisièmes générations.
Oui, ben, je crois qu'il y a une confusion de frères musulmans et salafistes. Hein. Les frères musulmans ont une position beaucoup plus ouverte sur la question de la femme au travail, etc. Ils sont beaucoup plus élitistes, ils sont beaucoup plus classe moyenne et supérieure. Ce que vous décrivez, c'est les salafistes, oui. Et c'est ce que je dis. Le salafisme, c'est dans le fond la religiosité spontanée des musulmans déculturés quand on veut adhérer à l'islam. Et alors du coup, ça se traduit par toute une série de normes dont bien entendu, comme toujours dans les religions, c'est autour de la femme que ça s'organise. Hein, ça c'est clair. La question du statut de la femme est absolument centrale dans les visions de toutes les religions fondamentalistes. Oui. Alors c'est un fait. Oui, ce que vous dites, enfin, c'est on le constate partout. Simplement, il ne faut pas non plus penser que tout le monde rentre dans ce jeu-là. La salafisation fonctionne, un, parce qu'elle a une séduction en elle-même, hein, pour des jeunes déculturés, et deux, parce que on les laisse faire dans le sens où on leur laisse de fait le monopole du religieux. Un exemple très clair, c'est la prison. Alors, c'est en train de changer. Mais pendant 15 ans, l'administration pénitentiaire s'est opposée à la présence d'aumôniers musulmans, hein, en disant on ne veut pas d'aumôniers musulmans parce qu'on ne veut pas d'islam à la prison. Conclusion, ce sont les prisonniers salafistes qui ont occupé tout le champ du religieux. Dans les quartiers difficiles, le problème, c'est la question, par exemple, des imams. Beaucoup d'imams sont importés. Pourquoi ? Parce qu'aucun jeune français musulman qui a un bac plus 5 ne veut être imam. Il y a une crise des vocations, contrairement à ce qu'on croit. Crise des vocations parce que c'est un statut pas du tout respecté, imam. Il y a toujours quelques imams charismatiques qu'on montre à la télé, mais l'imam moyen, il n'est pas respecté, et c'est pas lui le patron. Le patron, c'est le président de l'association islamique, qui est en général un commerçant ou quelqu'un qui a un poids social que l'imam n'a pas. Et l'imam, il a ses 450 euros par mois, son petit deux pièces, des cadeaux de temps en temps, et c'est pas lui. Bon, évidemment, et l'islam que cet imam diffuse est un islam salafisé. Là, on paye l'échec de la politique annoncée du gouvernement il y a 25 ans, qui est on veut créer un islam français. Et tous les ministres qui ont tous déclaré nous voulons un islam français ont tous négocié avec le Maroc la formation des imams français. Bon. Alors après, il ne faut pas s'étonner que bon, l'imam marocain au Maroc, ça va, parce qu'il est inséré dans une société. Hein. C'est pas l'imam qui fait la loi au Maroc. Bon. Par contre, le même imam transplanté parmi des jeunes en demande de normes religieuses et de salafisme, là, il fait des dégâts, parce que ce qu'il diffuse, ça va être un islam non maîtrisé, non domestiqué par la culture. Hein. Donc c'est, voilà, ce que vous décrivez est tout à fait exact.
L'importation, entre guillemets, est d'autant plus compréhensible qu'il n'y a pas un type qui parle arabe. Qui, enfin, il parle arabe, il parle l'arabe. Mmh.
Oui. Mais de toute façon, la culture ne les intéresse pas. Hein. La culture ne les intéresse pas, que ce soit la culture arabe ou la... Oui. Ah ben pour eux, la culture arabe, c'est du paganisme. La norme religieuse ne saurait s'incarner dans une culture donnée. Bon, et ça, c'est le modèle saoudien, de normes religieuses complètement déconnectées de toute culture, de toute vraie culture, au profit d'une société de consommation. Donc ça, c'est le gros problème. Là, c'est le fait qu'on n'a pas su ou pas voulu, depuis 25 ans, prendre en main la question de qu'est-ce que ça veut dire un islam français dans une société laïque où il y a séparation entre la religion et l'État. Et il y avait des solutions qui ont été proposées, qui ont toujours été refusées par une coalition d'ultra-laïques et de certains évêques catholiques. Par exemple, la mise en place d'une formation d'une faculté de théologie islamique à Strasbourg.
Merci. Voilà.
Alors, bon, je prends la parole juste pour présenter d'un mot Camille Riquet, qui va faire la conclusion. Hein, il va essayer d'être court, et puis, puis ensuite, à 16h30, hein, donc le prix Paul Ricoeur, de l'association Paul Ricoeur. Alors, je dis juste, Camille Riquet est maître de conférence de philosophie à l'Institut catholique de Paris. Il a fait sa thèse sur Bergson, et il fait partie des nombreux admirateurs de Peggy. Voilà.
Merci. Bah, non, la bêtise serait de vouloir conclure comme le disait Flaubert, surtout après avoir entendu Olivier Roy et Jean-Luc Schlegel, qui allient compétence et éloquence à merveille. Donc, je ne pourrais que balbutier. Vous m'entendez ? Un peu mieux, d'accord. D'autant plus que à vous écouter, ce serait un peu déplacé de le dire, mais j'ai presque reçu vos paroles comme du pain béni. Je m'y suis reconnu. Et le seul mérite que je pourrais avoir, c'est d'être plus jeune et d'être de l'autre génération, de la nouvelle génération. Comme si, peut-être parmi les choses que vous avez dites, le problème s'est quand même aggravé. Mais vous avez tous les deux commencé par la question du retour du religieux. À le remettre d'une certaine manière aussi en question, il est évident que le temps de l'athéisme militant semble désormais derrière nous, en ces temps nihilistes, mais comme vous l'avez dit, Olivier Roy, c'est parce que la sécularisation a gagné. Ou, comme le disait Jean-Luc Schlegel, parce que l'opération de décrédibilisation a été menée en quelque sorte à son terme. Hein, on traverse une crise de la vérité, et nos temps ont pu, plutôt qu'un retour du religieux, puisqu'on va bien se demander comment il peut retourner ce religieux, nos temps ont pu plutôt provoquer ce que Robert Musil appelait une nostalgie de la croyance. Et s'il y a rupture du croire, et bien d'une certaine manière, de vous à moi, j'ai l'impression qu'il y a encore plus de rupture, que j'en connais encore davantage. Et si je devais consacrer la difficulté qui est la nôtre, qui est la mienne, qui est peut-être celle de quelques autres de ma génération, je dirais que nous ne savons plus croire, littéralement. En tout cas, le doute nous vient qu'aujourd'hui, en revenant ou en essayant de revenir à la foi, après l'avoir quitté, nous confondions parfois le besoin de croire avec la croyance elle-même. Ce qui fait que la foi et le doute semblent revêtir une forme aujourd'hui qui lui ont fait perdre toute évidence. Donc, ma situation n'est pas la vôtre. Vous avez, en un sens, vécu une France qui perdait la foi et qui était de plus en plus sans foi. Je me demande si je ne suis pas dans une situation différente de celle qui se demande s'il est encore possible de retrouver autrement comment cette foi. Nous ne savons plus croire quand bien même peut-être nous le voudrions. Nous devons l'avouer, une gaucherie nous empêche d'accompagner pleinement ce mouvement parfois que nous avons et que notre cœur semble esquisser. Donc, je vous l'accorde, on traverse une époque foncièrement incroyante, et il est facile alors de prendre la croyance pour ce qu'elle n'est pas. Donc la vraie question n'est pas celle de Bouveresse dans son livre, peut-on ne pas croire ? Il me semble que la vraie question, en tout cas celle que je me suis posée, que d'autres peuvent se poser, est de savoir s'il est encore possible de croire, peut-on encore croire ? Les chrétiens modernes me semblent être bien souvent à la ressemblance de ces héros fatigués à la fois chancelantes qui peuplent les romans de Graham Greene, hein, ce grand romancier catholique. Et si on devait en plus compléter le tableau, puisqu'il a été question de l'islam, il est évident que face aux cultures venues d'Orient, le fossé semble se creuser, puisque là, l'élément religieux y est très marqué. Benoît XVI faisait remarquer que ces cultures venues d'Orient pouvaient être, je le cite, horrifiées par la froideur qu'elles constatent en Occident à l'égard de Dieu. Eh bien, nous aussi, face à elles, vieil Occident, dont la foi en quelque sorte a été énervée de sa force, a été ravalée au rang d'opinion, c'est ce qui a été dit et rappelé par Jean-Luc Schlegel, opinion parmi d'autres, mutée parfois en folklore, en tout cas confinée au privé, eh bien, il peut aussi nous arriver d'être tout aussi horrifié, d'une certaine manière, par la fermeté et par le caractère inébranlable de la foi que ces cultures nous opposent et qui nous paraît,
à tort ou à raison, appartenir à un autre âge. Donc, voilà où, en un sens, nous en sommes, privés de vérité. S'il nous arrive encore de croire, il me semble que nous le faisons avec cette faiblesse de croire. Voilà. Nous le faisons faiblement et aussi avec cette faiblesse de croire dont parle Michel de Certeau. C'est-à-dire que nos vieilles croyances semblent ou paraissent désarmées face à d'aussi vigoureuses. Et c'est ce qu'avait rappelé aussi Olivier Roy, c'est que du coup le religieux semble fonctionner autrement et se faire à travers un désir d'identité, de crispation identitaire, se faire un opérateur de séparation beaucoup plus d'unification. C'est la belle formule que vous avez utilisée d'une religion sans foi, où il s'agit simplement de se retrouver une identité face précisément à quelque chose qui peut nous effrayer. Donc il faut le reconnaître, c'est là où nous en sommes, en tout cas notre situation. Frédéric Rode, l'expression était assez belle, il disait « pour chaque siècle, les croyances morales de l'humanité ont été tout ce qu'elles pouvaient être ». Et évidemment, on ne peut pas sauter par-dessus son siècle, on ne peut pas sauter par-dessus son temps. Nous continuons d'appartenir en quelque sorte à notre siècle par les croyances les plus communes et aussi d'une certaine manière par cette difficulté commune que nous avons de croire. Si je devais trouver une opposition ou un modèle qui puisse s'opposer au nôtre, eh ben, ça ne, n'engage que moi, mais ce serait le grand XVIIe siècle. Mais si on devait trouver un siècle en quelque sorte où l'équilibre a été parfait entre foi et raison, où on a donné à la croyance sa forme la plus tenue, la plus digne, la plus élevée, il me semble que c'est le XVIIe siècle. On pourrait le résumer comme ça, c'est une foi forte et un doute fort. Foi forte, foi vigoureuse et un doute en quelque sorte aussi extrême. C'est un siècle sublime en quelque sorte pour cette raison, d'équilibre entre foi et raison. C'est Descartes à la fois croyant de foi catholique et en même temps inventeur de la table rase, inventeur du doute méthodique. C'est Pascal, sceptique quand il le faut et en même temps plus grand croyant encore, sceptique et chrétien à la fois, selon l'ordre où il faut en un sens se placer. Le XVIIe siècle, c'est le siècle de la contre-réforme, c'est le siècle des grands saints. Et si on devait encore retrouver une belle expression de cet équilibre, c'est Corneille qui peut aussi nous le donner dans son Polyeucte. L'expression me semble parfaite. Voilà ce que Corneille exprimait, mais ça me semble exprimer tout un siècle. Qui marche assurément n'a point peur de tomber. Dieu fait part au besoin de sa force infinie. Qui craint de le nier dans son âme, le nie. Il croit le pouvoir faire et doute de sa foi. Quelle belle expression, quel bel équilibre. Nous sommes dans un siècle, en quelque sorte, qui n'est plus si sûr de ce qu'il croit ni de ce qu'il sait. Les moralistes, aujourd'hui, essayent d'éventuellement prôner une morale sans transcendance. Et si on devait nous comparer à un autre siècle, c'est pas le XVIIe, c'est le XVIe. C'est-à-dire qu'après le grand rationalisme qui a occupé trois siècles, eh bien, on a l'impression, parfois, par certains égards, que nous revenons au XVIe, au siècle de Montaigne. Lui qui disait que son siècle connaissait une maladie du croire. Et là, on pourrait, par opposition, dire que le XVIe siècle a vécu comme nous une foi faible et un doute faible. C'est-à-dire qu'après trois siècles de rationalisme, nous sommes déçus par les promesses, chose est bien connue, non tenues, faites par cette raison à laquelle peut-être on avait trop demandé aussi, période de relativisme, d'impuissance religieuse. Et Montaigne le disait, la foi du XVIe est faible, je le cite, « plaisante foi qui ne croit à ce qu'elle croit que pour n'avoir le courage de le décroire ». Eh bien, notre incrédulité, puisque évidemment c'est de façon symétrique qu'il faut le penser, notre incrédulité postatée, d'une certaine manière, l'est tout autant. Il semble que nous ne pouvons pas croire parce que nous n'avons plus la force de le faire. Et quand nous le faisons, c'est une faiblesse. L'athée a été remplacé par l'agnostique, qui ne nie ni n'affirme, n'a plus même accès aux réponses, il me semble, faute même de posséder en quelque sorte les questions qui eussent permis de comprendre ces réponses. Donc, voilà la situation qui rend la foi problématique, en manque d'elle-même en quelque sorte. Au XVIe siècle, tout le monde était crédule, Montaigne ne cesse de le dire, dans la vraie foi venait se mêler tant de contes de bonnes femmes que Montaigne disait dans son époque qu'elle ne savait plus croire.
Eh bien, au XXIe siècle, d'une certaine manière, mais de façon symétriquement inverse, tout le monde est en un certain sens, y compris le chrétien, si je puis dire, incrédule. C'est-à-dire que nous sommes tant méfiés de nos anciennes superstitions qu'après tant de cynisme qui a été le nôtre, la foi naïve nous est privée. La foi naïve que nous avons tant moquée semble devoir à présent nous être refusée, interdite. Et il me semble que c'est la situation objective où la modernité nous a placés, rongeant la foi chrétienne de l'intérieur, faute justement de pouvoir trouver un reflet d'elle-même en dehors d'elle, un reflet d'elle-même dans la société où elle avait l'habitude de se nourrir. Hein. C'est-à-dire que le fait d'être confinée dans le privé, évidemment, ne peut que la dévitaliser. Donc je veux bien que la foi doive ou puisse se cantonner au réduit de notre intériorité, mais vous comprenez bien que faute d'appui hors d'elle-même, dans le monde, dans les choses, dans les autres, dans la capacité de pouvoir se tendre un miroir au dehors, elle se donne évidemment un reflet évanescent, inconsistant d'elle-même, et s'entretient le plus souvent dans une solitude qui menace de l'étouffer, faute de pouvoir être communiquée et partagée. Alors, c'est la situation, et c'est aussi dans Ricoeur que je trouve éventuellement quelque chose comme une issue, et je rejoins probablement des propos qui ont été tenus par Olivier Mongin, puisque les articles sur lesquels il s'est appuyé sont aussi ceux qui m'intéressent, mais qui me semblent être dire beaucoup de Ricoeur en général. C'est là justement qu'il me semble qu'on a toujours fait un faux procès à Ricoeur lorsqu'on lui reproche un consensus mou, un éclectisme faible de bon aloi qui se place au milieu des contraires voulant réconcilier tout le monde. Il me semble que c'est tout le contraire avec Ricoeur quand je le lis, notamment l'article que vous avez cité, « Religion, athéisme et foi », magnifique. Il me semble au contraire vouloir redonner force et vitalité, radicalité même, à la foi comme au doute, les deux à la fois. Retrouver une foi forte et un doute fort en même temps. Et par là peut-être, sans le savoir, en renouant avec le bel équilibre du XVIIe siècle. Mais en sens inverse, encore une fois. C'est-à-dire que là où le XVIIe siècle n'avait pas peur de douter parce que sa foi était forte, n'avait pas peur de douter parce qu'il était sûr de sa foi et qu'il ne craignait aucun coup, en quelque sorte, ce à quoi nous encourage Ricoeur, c'est, en un temps où la foi est moribonde, de douter plus encore, d'entretenir la critique, de la mener à son terme, en quelque sorte, de lire Nietzsche, Marx et Freud, afin, justement, paradoxalement, que la foi se ravive, hein, dont il garde, évidemment, cependant, la conviction. C'est toujours pareil, critique et conviction. C'est le geste fondamental de Ricoeur. Et que, à travers, en quelque sorte, ce geste critique, d'athéisme, qui est aussi le rôle du philosophe, ressurgit ce qui mérite de survivre dans la foi. Donc, c'est ce qui me semble exactement se proposer de faire. Le contraire d'une religion sans foi, c'est au contraire d'assumer une foi post-religieuse qui a survécu à l'épreuve de l'athéisme, embrasser la critique de la religion, hein, offerte par l'école de soupçons, s'en servir comme d'un levier pour éliminer justement les faux dieux, en l'occurrence, on le sait, le dieu de la métaphysique, le dieu moral, le dieu de la première cause, le dieu rétributeur, le dieu consolateur, d'une certaine forme de consolation, me dirait Michael Fossel, mais néanmoins quand même ce dieu de la consolation, et par là, évidemment, libérer une autre parole qui avait été recouverte jusqu'ici, libérer une parole qui est capable de changer la compréhension que nous avons de notre propre situation, de nous-mêmes, capable, comme il le dit, de restituer le kérigme après Bultmann et de nous acheminer vers une foi qui serait débarrassée de ces nombreuses idoles dont on l'entoure. Pour le dire encore autrement, de nous acheminer vers une signification authentique de Dieu. Donc c'est cette double herméneutique qu'il veut mener de front, qui pour moi semble revenir à cet équilibre souhaité, mais différent évidemment. C'est aucune nostalgie par là que je veux signifier, mais d'un doute fort, et par ce doute fort, évidemment, d'une foi qui retrouve elle-même sa force. Double herméneutique pour moi qui est un prolongement du bergsonisme. Je renie pas Bergson. Ricoeur est un grand lecteur des deux sources de la morale et de la religion. La religion a deux sources qui s'entremêlent, et il faut en terrasser une. Il faut faire que l'une cesse de s'abreuver, la religion naturelle, la religion statique, au profit de l'autre. Et donc c'est cette double herméneutique, en un sens, que Bergson était bien incapable d'élaborer, mais qui a été le résultat du travail de Ricoeur et qui les met tous les deux, l'un et l'autre, dans un même
sillage. Donc on est très loin de l'éclectisme faible. Rien ne m'horripile plus que lorsqu'on parle de Ricoeur en ces termes, d'un doux ayant une foi faible, ayant un doute faible. Au contraire, il me semble que dans la situation telle qu'il ne la donne, et je résume, je m'arrêterai là, mais il s'agit de critiquer d'autant plus violemment qu'on veut sa foi plus pure et qu'on ne craint pas, par la critique, qu'elle meure en l'attaquant. Voilà. Donc athée et chrétien, d'une certaine manière, tout à la fois. C'est comme ça que je résume.
Merci.
Merci, merci Camille. Donc, nos réjouissances de rencontres et de débats se terminent. Et nous allons passer maintenant à d'autres réjouissances, à d'autres honneurs, à d'autres discours, donc dans 10 minutes, hein, c'est ça ? Voilà. Alors. Didier, on fait les discours ici. On reste ici. Pardon. Oui, alors on va pas attendre 10 minutes, on va le faire tout de suite. Le récipiendaire est là, celle qui va faire le discours est là, Laure Adler, viens avec nous. Viens ici. Nous, on s'en va. On va enlever ça.
Le récipiendaire est où ? Le récipiendaire est où ? Je vais prendre le truc de l'huile.
Alain Maé est où ? Alain Maé n'est pas là ? Ben ça alors ?
Bonjour, merci. Je pas là, je vais dire dans les 24 heures. Alors, s'il n'est pas là, effectivement, on va te le donner à toi. Hein. Oui, salut. Non,
alors, il faut attendre un tout petit peu que le récipiendaire arrive. Normalement, il devrait être pratiquement là, mais. Il n'avait pas son numéro de téléphone, non ? Son portable, il me l'a donné, je crois.
Je ne le connais pas, elle est peut-être dans la salle, mais en fait, elle se serait fait connaître.
Ah, le voilà.
Venez,
récipiendaire.
Tu connais le titre du livre, parce que je ne l'ai pas sous les yeux.
Non, je n'ai pas sous les yeux. Toi
non plus. Tu connais le truc,
hein, c'est il a traduit.
Il a traduit
en arabe classique, en arabe dialecte, enfin... En français moderne, en arabe classique, en arabe dialectal et en arabe je sais pas quoi. Et donc ça tombe particulièrement bien dans ce transfert du contenu.
Les gens ne savent pas.
D'accord.
Je le propose à M.
Bouchelguel.
Je le propose à l'éditeur de classe.
Est-ce que vous avez des commentaires ? Il y en a qui sont sur la table.
Ah,
d'accord. Voilà.
Oui, parce qu'aucun d'entre nous n'a d'exemplaires sur le soir.
Vous pourriez amener un exemplaire pour qu'on le montre. Je vais le chercher.
Non, il est allé le chercher.
Ah, d'accord.
Est-ce qu'on a le droit de l'eau ?
Très bien. Ça fait combien d'années qu'il existe ce prix ?
Comment ?
Ce prix, Paul Ricoeur, ça fait quoi ?
Ça doit faire c'est la quatrième fois qu'il est donné.
Quatrième fois. C'est quoi ? Ah, c'est pour que... Mais tu ne veux pas le donner ?
Non ? Donc, au terme de cette journée... et qui était sous les mandes de Paul Ricoeur au point de lui demander son avis pour savoir comment interpréter les tragiques événements du mois de novembre. On sent comment ce philosophe disparu depuis 10 ans nourrit notre réflexion au point peut-être de lui demander de prédire l'avenir. Nous avions donc souhaité que pour le 10e anniversaire de sa mort, comme tous les 2 ans, le prix Paul Ricoeur, qui est un prix qui a été donné à des auteurs prestigieux, d'Orléans, dont on parlait tout à l'heure, Charles Taylor, a été donc attribué par un jury présidé par François Doss, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui car il est au Brésil, avec un jury comportant Olivier Mongin, Miguel Fessler et Laure Adler et François Doss par conséquent, et Myriam Rovodalon, pardon, et qui, après avoir reçu quelques candidatures et avoir réfléchi à plusieurs livres concernant, sinon à la pensée de Paul Ricoeur directement, mais qui s'intègre dans la philosophie de ce prix, a été donc décerné à Alain Mahé. Et c'est Laure Adler qui remplace le président du jury, François Doss, qui elle-même est une ricœurienne, compétente et toujours attentive à cette pensée, qui va le remettre avant que M. Mahé dise en quelques mots, au fond, la teneur de ce livre, pour que vous puissiez en acquérir quelques exemplaires d'un éditeur relativement discret, mais qui mérite justement d'être récompensé pour cette publication. Je passe la parole à Laure.
Alors, merci. Merci beaucoup Didier. Donc, la délibération de ce prix a eu lieu à la bibliothèque Paul Ricoeur. Donc nous étions entourés des livres de Ricoeur pour pouvoir discuter des différentes propositions qui ont été émises. La discussion a été assez vive. Il y a eu des points de vue contradictoires, mais la hauteur des livres qui étaient présentés nécessitait des argumentations aussi fines que complexes. Mais finalement, donc, c'est Alain Mahé pour ce travail absolument remarquable d'un texte qui, hélas, en raison des événements que nous traversons, je pense, est de plus en plus indispensable à lire et à relire. Donc c'est Alain Mahé pour ce travail sur ce texte de Étienne de la Boétie, de la servitude volontaire, qui l'a obtenu, à plus d'un titre, à cause d'abord de son travail rigoureux, scientifique, à cause de son immense qualité qui croise différentes disciplines, à la fois l'anthropologie, la connaissance particulièrement fine depuis des décennies de la Kabylie, à cause de son engagement citoyen et à cause aussi de cette possibilité pour d'autres peuples, d'autres civilisations de se voir imprimer de l'intérieur ce texte de la Boétie. Olivier Mongin m'a dit de ne pas oublier quelque chose. Donc je ne vais pas l'oublier parce que ça appartient à ma jeunesse et à mes années d'étudiante. Ce texte, comme bon nombre d'étudiants de l'époque, je l'ai lu dans une collection qu'on appelait Le Petit Livre Rouge, et c'était mon petit livre rouge à moi. C'était la collection Payot, donc qui était dirigée par Miguel Abinsour, une collection qui existe toujours. Et donc, ce texte de la Boétie, je crois qu'on n'aura jamais épuisé ni le sens, ni les significations, ni les propositions à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir décrypter le monde tel qu'il va et tel qu'il ne va pas en ce moment. Donc, bravo Alain Mahé. Nous allons féliciter aussi et donner la parole à l'éditeur, car c'est un, j'aime pas du tout ce mot, mais on appelle ça un petit éditeur. Un petit éditeur, c'est-à-dire un grand éditeur qui, loin des chemins, des stratégies éditoriales qu'ont tendance en ce moment à favoriser les grands groupes, permet justement d'accompagner une pensée intellectuelle et morale au sens de Paul Ricoeur. Donc Alain Mahé, toutes nos félicitations et peut-être pouvez-vous expliquer d'où vous vient cet amour du texte. Ah oui, Didier me dit qu'il faut que je donne, c'est l'enveloppe. Pas seulement les mots, mais les gestes.
Ben, quand j'ai appris que notre livre avait été retenu pour concourir pour le prix Paul Ricoeur, j'ai été très bien, ça marche, je crois, oui. J'étais à la fois surpris et flatté. Non, ça marchait. Donc j'étais surpris parce que je me demandais comment les membres du jury avaient eu connaissance de l'existence de ce livre, parce qu'on a une diffusion extrêmement modeste. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de jurys de prix qui acquièrent par eux-mêmes un livre. Enfin là, c'était le cas en l'occurrence. Et j'étais flatté pour des raisons naturelles. Alors, je l'étais encore plus quand j'ai appris que c'était l'édition de la Boétie qui avait été distinguée, parmi les autres ouvrages en lice. Alors, entre-temps, et comme j'ignorais jusqu'alors l'existence de ce prix Paul Ricoeur, je suis allé chercher sur le net des informations que j'ai trouvées. Alors, je ne vous cache pas que d'apprendre que le précédent lauréat était Charles Taylor pour l'ensemble de son œuvre m'a laissé quelque peu incrédule. Mais je me suis vite rasséréné en m'avisant que ce prix récompensait non seulement mon travail personnel, mais aussi celui de chaque membre de l'équipe qui a contribué à cette édition polyglotte. Pour la traduction en arabe classique, Mustapha Safouan et Afif Osman, en arabe dialectal, Hakima Barrada, Mustapha Naoui et Hamdi Sharif, et pour le berbère, Amzian Kezar. Enfin, et par-delà les auteurs, à travers eux, c'est aussi le travail exceptionnel, je dirais héroïque, si je n'avais pas peur de superlatif, de l'éditeur algérien avec lequel je travaille depuis maintenant 20 ans, depuis qu'il a quitté l'Algérie, pour pouvoir continuer son travail et pour pouvoir vivre, tout simplement, Abdelrahman Bouchel. Alors, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est la première fois qu'on propose au public un livre, une édition trilingue, donc en arabe, classique et dialectal par ailleurs, en berbère et en français. Donc ça aussi, ça mérite d'être souligné. Alors j'ai préparé, comme j'ai jamais fait ça, un discours pour recevoir un prix, donc j'ai pas de modèle, j'ai préparé un texte qui éclaire les raisons qui m'ont conduit devant vous, en particulier le rapport à Paul Ricoeur. Alors il y a toute une série de raisons qui expliquent le long détour qu'a conduit un anthropologue du Maghreb à venir braconner, c'est un concept de Certeau beaucoup, à venir braconner sur la littérature, la philosophie et la théologie du XVIe siècle. J'en évoquerai seulement deux susceptibles d'éclairer ce dont je vais parler ensuite. Il y a d'abord mon insatisfaction, c'est un euphémisme, devant les outils proposés par les sciences sociales pour décrire et analyser les problèmes moraux. Et ensuite, c'est ma révolte logique contre les dichotomies opérées par les mêmes sciences sociales, sociologie, anthropologie pour l'essentiel, entre les sociétés européennes et les autres. Donc, soit pour illustrer mon insatisfaction, le concept de solidarité, qui est, comme vous le savez tous, au cœur de l'invention des sciences sociales, spécialement en France. Et à mes yeux, le succès du concept et des théories de la solidarité tient à leur capacité, peut-être même à leur vocation, à dissoudre le problème moral, évidemment religieux. En ne considérant la solidarité que sur le registre de l'interdépendance des hommes, on évacue en effet la distinction morale, notamment, entre l'amitié et la complicité. Alors ça pose un certain nombre de problèmes, et ce faisant, les sciences sociales, en évacuant le problème moral en même temps, ils prolongent à leur niveau une perspective qui me paraît éminemment problématique, c'est celle du mal comme non-être, dont les sciences sociales héritent de la théologie. D'où une première raison de cette enquête archéologique à propos d'un texte contemporain dans l'invention de la philosophie politique moderne au XVIe siècle. Or, quant à ma révolte logique, je fais le pari que vous êtes nombreux à la partager, et je préfère réserver mon temps de parole pour entrer dans le vif du sujet. J'illustrerai seulement cet aspect par une question qui ne cesse d'informer ma réflexion en tant qu'anthropologue, rien que d'un point de vue analytique, bien sûr. Est-ce qu'on peut se contenter de dire que, pour prendre un exemple, des alliés dans une vengeance sont solidaires? Pour ce qui me concerne, j'ai essayé de montrer qu'on pouvait mieux éclairer et comprendre la vengeance en introduisant la distinction entre amis et complices dans les diverses étapes qui marquent l'accomplissement même de la vengeance, y compris quand cette vengeance est perçue localement comme parfaitement légitime, évidemment. Alors, en fait, en tant qu'il propose une typologie des relations sociales selon la part qui prend l'amitié, l'inimitié, l'échange, l'alliance et la complicité, le texte de la Boétie n'a cessé d'accompagner mon travail d'anthropologue. Une phrase surtout, époustouflante de concision, n'a cessé de résonner dans mon travail. Je cite la Boétie. « Entre les méchants, quand ils s'assemblent, c'est un complot, non une compagnie. Ils ne s'entraînent pas, mais ils s'entrecraignent. Ils ne sont pas amis, mais ils sont complices. » Ça, c'est le programme du discours de la Saphie de Volontaire, d'étayer, de préciser ce qu'implique justement la part d'amitié, d'inimitié, d'échange, d'alliance, de complicité dans la stabilité ou l'instabilité des différents types de relations entre les hommes. Alors, l'amitié de la Boétie donc, est au fondement de la réciprocité propre à l'échange social, autant qu'elle est la condition de relations politiques conformes à notre vocation naturelle à la liberté. Alors, si l'alliance politique présuppose l'échange social, c'est parce que l'amitié est la condition de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que la pensée de l'amitié de la Boétie propose les bribes d'une sociologie parfaitement originale en ce qu'elle ne procède ni du contractualisme, ni de l'économisme ou du naturalisme promu par les Lumières, pas plus qu'elle ne relève de la physique ou de la mécanique sociale au fondement de la plupart des sociologies du XIXe siècle. Au-delà de cette réflexion sur la tyrannie et la servitude volontaire, de la servitude volontaire de la Boétie mérite donc amplement d'être lue au regard de ce qui est dit des fondements des liens sociaux. Aujourd'hui, dans les 2-3 pages qui restent là, je vais évoquer seulement les raisons qui m'ont conduit devant vous en m'attachant à mettre en perspective l'entreconnaissance, c'est le concept cardinal du discours de la servitude volontaire de la Boétie, donc mettre en perspective l'entreconnaissance de la Boétie et la reconnaissance telle qu'elle a été pensée par Ricoeur. À vrai dire, en tant qu'anthropologue et surtout ethnographe, je me suis confronté une première fois à la pensée de Ricoeur dans le cadre d'une publication, toujours aux éditions Bouchaine, d'une ethnographie des échanges rituels de dons en Afrique du Nord. Ethnographie qui m'avait conduit à mettre en perspective les travaux de Mauss, de Lévi-Strauss et de Bourdieu. Dans son parcours de la reconnaissance, et au terme d'une belle présentation des enjeux philosophiques du débat sur le don, Paul Ricoeur montre que les débats se sont trop longtemps polarisés sur les obligations de donner et de rendre. Et en effet, on pourrait peut-être remplir la salle ou les murs de cette salle des ouvrages consacrés à l'anthropologie du don et qui sont polarisés sur la question du donner et du rendre. Alors que selon Ricoeur, et je pense à juste titre, c'est dans la question du recevoir qu'on peut trouver la clé d'une distinction entre réciprocité et mutualité. Distinction qui permettrait, sinon de dériver le social de l'intersubjectif, de thématiser au moins la mutualité en se passant du primat de la réciprocité sur l'altérité, l'un à l'autre, des protagonistes de l'échange. C'est une citation de Ricoeur. C'est-à-dire d'éviter d'une part, toujours dans la perspective de Ricoeur, l'aporie d'une transcendance de la réciprocité, cette espèce de loi d'airain qui planerait sur les hommes qui nous obligerait à des échanges, qui revient donc à dissoudre les sujets et leur intention dans le système social de la réciprocité, et d'autre part, d'éviter l'aporie inverse du solipsisme auquel conduit la réduction phénoménologique à une conscience transcendantale. Bon, mais c'est surtout sur la question de l'amitié, et précisément de la vocation politique de l'amitié, que l'œuvre de Ricoeur m'a été précieuse. L'amitié est au cœur de la pensée de la Boétie. Tout ce qu'il dit converge autour d'une idée parfaitement originale, l'entreconnaissance. Cette idée, ou ce concept, lui permet d'articuler comme personne ne l'avait fait avant lui, et personne ne l'a fait depuis, malheureusement, les deux dimensions de toute relation intersubjective, celle du lien, ça on connaît, mais ce qu'on ne connaît pas, c'est celle du lieu. Hein, dans l'intersubjectif, dans l'inter latin, inter, c'est aussi bien le lieu que le lien. Et c'est dans la langue, en tant qu'elle est consubstantielle aux relations entre les hommes, que c'est le premier domaine que la Boétie explore à la fois comme un lien et comme un lieu. Sur le plan du savoir d'abord, c'est seulement en échangeant des paroles et des arguments que les hommes peuvent espérer se connaître et indissociablement se mettre d'accord pour concourir ainsi raisonnablement à produire de la concorde. C'est cette double polarité lieu et lien propre au concept d'entreconnaissance de la Boétie qui m'a permis de reprendre la question de la lutte pour la reconnaissance qui informe la philosophie contemporaine, au moins depuis le séminaire que Kojève a consacré à Hegel depuis la Deuxième Guerre mondiale, enfin c'était dans les années 30, mais, et qui informe la philosophie contemporaine et qui a conduit surtout les sciences sociales à s'obstiner en vain à faire dériver le social de l'intersubjectif. Pourquoi en vain ? En vain, car l'intersubjectivité de la philosophie et des sciences sociales n'a retenu qu'un seul sens de l'inter latin, celui du lien, qui permet seulement de thématiser la dimension relationnelle de l'inter. Or, l'inter, c'est aussi l'espace, le lieu. L'intérêt de l'entreconnaissance de la Boétie est précisément d'articuler le lieu et le lien de l'inter. Et c'est dans le sillage de Lefort et de Ricoeur que j'ai entrepris ce travail. Dans son parcours de la reconnaissance, donc le titre d'un des ouvrages de Paul Ricoeur, Ricoeur a proposé une généalogie du concept de reconnaissance à partir du grand siècle, donc le XVIIe, en envisageant les transformations successives du sens qui affectent le mot reconnaissance. Et il a conclu son parcours en parlant d'une révolution de pensée. Or, en prolongeant en amont l'enquête de Ricoeur jusqu'au XVIe siècle, j'ai tenté de démontrer que, comparé aux perspectives ouvertes par l'idée béotienne d'entreconnaissance, c'est bien davantage une déperdition qu'un enrichissement qui s'enclenche au XVIIe siècle. L'hypothèse de Ricoeur est que les usages philosophiques potentiels du verbe « reconnaître » peuvent être ordonnés selon une trajectoire partant de l'usage à la voix active à l'usage à la voix passive. Il affirme que, je cite, « ce renversement au plan grammatical porterait la trace d'un renversement de même ampleur au plan philosophique ». À la faveur de ce renversement de la voix active et en conjonction avec la prédominance de la reconnaissance mutuelle, la reconnaissance acquiert un statut de plus en plus indépendant au regard de la cognition comme simple connaissance. Fin de citation. Cette progression, il la qualifie d'affranchissement croissant du concept de reconnaissance, aboutirait à un stade ultime, c'est encore son expression, auquel la reconnaissance non seulement se détache de la connaissance, mais lui ouvre la voie. Or, ce que Ricoeur qualifie de révolution de pensée ne me semble pas être autre chose que l'issue trouvée après maints tâtonnements pour sortir des apories de la dialectique du maître et de l'esclave, où a conduit la problématique de la reconnaissance, conçue uniquement à partir de la relation intersubjective. Aporie sur lesquelles a buté la pensée philosophique depuis le XVIIe siècle, en ignorant d'autres voies, dont celle inventée par la Boétie en termes d'entreconnaissance et d'entreconnaître. La Boétie apparaît dans les dernières lignes de l'ouvrage de Ricoeur, lorsque ce dernier cite le fameux passage des Essais de Montaigne. Je cite Ricoeur citant Montaigne. Avant Simone Veil, plaidant pour la distance dans la proximité de l'amour et de l'amitié, donc retenez, hein, distance, proximité, Montaigne, lourd du deuil de la Boétie, écrivait ces lignes au chapitre de l'amitié du livre 1 des Essais, et là donc Ricoeur cite Montaigne. En l'amitié de quoi je parle, elles, les âmes, se mêlent et se confondent l'une en l'autre d'un mélange si universel qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Comment ne pas voir la contradiction entre l'insistance de Simone Veil à souligner la dimension spatiale de la relation entre distance et proximité et la couture jointive qu'il abolit dans le lien fusionnel exprimé éloquemment par Montaigne? Cette formule énigmatique qui en résulte suffit-elle à restaurer l'intégrité de sujet dont il venait d'être dit qu'il se confondait dans un mélange effaçant la couture qu'ils avaient joint? Comment Ricoeur, si soucieux de concilier le caractère indépassable de la pluralité humaine dans les transactions intersubjectives, et je cite toujours « l'altérité l'un à l'autre des protagonistes de l'échange », peut-il se contenter de la formule amoureuse de Montaigne alors qu'il aurait pu faire son miel de l'entreconnaître et de l'entreconnaissance de la Boétie? Bref, pourquoi sur le seuil de cet espace évoqué par Simone Veil avoir choisi l'amitié selon Montaigne plutôt que selon la Boétie? Serait-ce seulement un effet de l'ombre portée par Montaigne sur l'œuvre de son ami? Ou doit-on comprendre que le type d'amitié loué par Montaigne anticipe aux yeux de Ricoeur une sorte d'aboutissement idéal de l'histoire de la subjectivation? L'intérêt de l'ouvrage de Ricoeur, outre qu'il permet d'aborder la question de la reconnaissance sur un mode pacifié, puisque jusqu'à présent ça avait quand même été sur un mode très, très belliciste, belliqueux, hein, Sartre, Fanon, vous connaissez tout ça, réside d'abord pour moi dans l'analyse de sémantique historique qui précède sa réflexion proprement philosophique. Plutôt que de s'attacher aux renversements successifs de la dialectique hegélienne, qui jalonne l'histoire de la philosophie contemporaine, Ricoeur a choisi en effet de commencer par se pencher sur les ressources du langage ordinaire pour voir comment il permet à tout un chacun de penser des rapports entre la connaissance et la reconnaissance. Et de fait, l'inventaire qu'il dresse à partir des entrées des dictionnaires de la langue française du XVIIe siècle à nos jours lui permet de montrer comment, je cite, « la polysémie réglée du terme de reconnaissance présente une variété de configurations dans lesquelles s'articulent connaissance et reconnaissance sur des modes tout à fait comparables à ceux que proposent les systèmes philosophiques ». Au terme de son enquête dans le Littré et dans le Grand Robert, la langue française, Paul Ricoeur a reconstitué ce qu'il appelle la polysémie réglée des 23 significations du mot « reconnaissance ». En exhumant la logique d'engendrement des dérivés du mot « reconnaissance », avec en toile de fond les philosophèmes correspondant à la façon dont le concept de reconnaissance a été thématisé et théorisé entre le XVIIe et le XXe siècle, Ricoeur en vient à conclure son enquête en montrant comment, entre la reconnaissance comme reconnaissance, c'est-à-dire se remettre dans l'esprit de quelqu'un ou de quelque chose, et la reconnaissance comme gratitude, la dérivation du mot bouclait la boucle de ses sens dérivés, hein, entre le XVIIe et le XXe. Ricoeur nous dit que c'est seulement en fin de parcours que le sens numéro 15, c'est lui, hein, avoué, confessé, fait, je cite Ricoeur, surgir l'autre inattendu, la reconnaissance-gratitude. Ce qui lui permet alors d'étayer son idée que La principale révolution conceptuelle au plan des philosophèmes advint avec le thème hegelien de la lutte pour la reconnaissance, dont l'être reconnu est l'horizon. En ajoutant par surcroît que le littré n'avait pas prévu que ce serait du côté du renversement de l'actif au passif, du reconnaître à l'être reconnu que soufflerait le vent de la révolution majeure, qui devait ébranler l'ordre tranquille de dérivation au niveau du langage ordinaire, nous voilà donc reconduits à Hegel. En faisant commencer avec mon travail sur la Boétie, l'enquête philologique au XVIe siècle, c'est un tout autre parcours et de toute autre perspective qui se déploie. En prolongeant donc l'enquête d'un siècle, en amont de celle de Ricoeur, on découvre que les deux significations possibles du mot, qui selon lui encadraient les quatre siècles de son parcours de reconnaissance, étaient déjà présentes dès le XVIe siècle. Et cela alors que les 21 autres significations intermédiaires en étaient absentes. Comment parler d'invité surprise, la reconnaissance-gratitude, qui fait retour sur le mode de la récompense, alors même que cette reconnaissance-gratitude est la seule signification du verbe reconnaître attestée dès le XVIe siècle. Et cela tant sous la forme active de reconnaître les mérites ou les vertus, que sous la forme passive de celui qui est reconnu. Je vais peut-être sauter un peu, hein, j'ai prévu un peu long. Hein. Encore 5 minutes ? Oh là là, oui, d'accord. Ça va alors, 5 minutes. Bon, je veux dire un mot quand même sur les deux seules significations attestées au XVIe siècle pour reconnaître. Car il ne suffit pas de constater qu'elles encadrent à elles seules toutes les dérivations que développeront les siècles suivants, et qui sont analysées remarquablement par Ricoeur. Encore convient-il de remarquer ce qui se dit dans la forme grammaticale qu'elles prennent. Non seulement le verbe reconnaître est attesté à l'actif et au passif, l'être reconnu, cher à Ricoeur, mais en confiant la tâche de désigner le reconnaître comme repentir à la forme pronominale, se reconnaître, c'est comme si la langue française avait enclos la réflexivité de la reconnaissance dans le fort intérieur du croyant. Comme si, autrement dit, au plan moral, le collectif ne pouvait distribuer que des honneurs et des récompenses, tandis que seul le sujet pouvait se connaître d'une connaissance qui débouchait inévitablement à du repentir. Bon, mais j'ai prévu des autres découvertes qui m'ont fait m'a conduit mon enquête, mais ça risque d'être un peu technique, un peu long. Je peux peut-être m'arrêter là.
Hein, c'est la parole. Un mot.
Un mot pour votre travail remarquable.
C'est bon, ça marche. Ouais. D'abord, je remercie tous les membres du jury d'avoir distingué le travail remarquable d'Alain Mahé, et puis l'éditeur, par contre-coup. Éditeur discret, comme on l'a souligné, parce que j'ai pas un ego surdimensionné. Je suis parti, donc je suis éditeur algérien, exilé en France, je continue mon travail. Dans l'essentiel, c'est la recherche d'une pensée authentique qui colle à la réalité sociale et historique. Et c'est le deuxième prix que nous recevons. On a eu, dès notre premier bouquin, le prix François Billet-Doux en 1999 pour l'ouvrage de Daniel Timsit, Algérie, récit anachronique. Un ouvrage qui peut être actuel, malheureusement. Daniel Timsit était médecin à Alger, fabricant de bombes pour le FLN, donc terroriste. Et l'ouvrage a été fait 30-40 ans après, et Daniel Timsit se pose la question, donc avec la distance, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est dire que voilà notre démarche, donc rechercher, parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, en France, en Europe et dans le monde, on a besoin d'une pensée authentique qui colle au réel. Parce que le citoyen est perdu dans la confusion et dans les faux discours. C'est peut-être ambitieux, on fait notre petit travail. On considère que c'est un travail de citoyen, c'est tout.
Le prix Paul Ricoeur honore pour une fois un auteur et un éditeur.
Et je crois que c'est une leçon pour les futurs prix Paul Ricoeur et d'autres prix, comme un engagement d'un éditeur permet à un auteur de s'exprimer. Cette deuxième rencontre-débat de 2015 se termine aujourd'hui. Elle a été absolument passionnante et donc en 2016, il en est prévu deux, le 17 mars 2016 à propos de l'économie et en novembre 2016 sur Ricoeur et la justice. Et je crois que ces débats-rencontres sont l'occasion d'une réflexion en profondeur et qui nous permet de nous retrouver sur, sinon des repères, au moins quelques balises qui nous permettent de penser notre monde contemporain en manque de réflexion. En tout cas, merci d'avoir participé à ce débat-rencontre et d'être resté jusqu'au bout pour honorer Alain Maillet. Merci. Je pense qu'il y a quelques livres que l'auteur pourra dédicacer s'ils sont là. Ouais. Et donc, vous pouvez partir avec un livre et qui sera dédicacé par l'auteur.
Bravo. Hein. Bravo pour votre travail à tous les deux. Hein.
À tous les huit, en fait.
À tous les huit. Il faut aller signer maintenant.